du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le 29e épisode de la saison 6 de Vue du banc. Un épisode un peu particulier pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'ordinateur humain Florent Tonuti n'est pas encore rentré de son périple djiboutien. Et puis parce qu'on va débriefer à la fois les matchs de Ligue des Champions de mercredi soir, donc Atalanta-Valence et Tottenham-Leipzig, qu'on n'a pas encore pu débriefer, et se projeter un peu sur les matchs à venir, Lyon-Juve, Barça-Naples, Chelsea-Bayern, et j'en oublie un, mais Christophe Kuchli va m'aider, pardon, salut Christophe.
Salut Raphaël, non je t'aiderai pas, c'est ton émission, à toi d'être meilleur.
À moi d'être meilleur, et ben je vais trouver ce match, mais on va d'abord commencer. Ce match c'est Real Madrid-Manchester City, comment j'ai pu oublier ça? Comment j'ai pu oublier cette rencontre qui sera en même temps que Lyon-Juve, donc il va falloir se débrouiller mercredi soir. Mais avant ça Christophe, on va s'attarder un peu sur le gros succès de l'Atalanta contre Valence, victoire 4-1 mercredi dernier, avec un doublé d'Attebourg, un but d'Ilicic, un but de Freuler contre un but de Cheryshev. On était très heureux de voir l'Atalanta sortir de la phase de poule qui avait très mal démarré avec 3 défaites, qui s'était beaucoup mieux déroulé ensuite avec 3 victoires qui avaient permis de grappiller une place derrière City. On se doutait que ça pouvait mal tourner pour Valence, vu les certitudes de l'Atalanta et le flou général du côté espagnol. Ça ne t'a pas surpris de voir ce score. Par contre, ce qui était vraiment bien, c'est de voir que l'Atalanta ne se fasse pas avoir bêtement comme ça lui arrive souvent, et là concrétise ses occasions, alors que c'est une équipe qui parfois a des scénarios un peu cruels.
Ouais, alors juste pour préciser, il y avait un nul et 2 victoires sur la phase retour de Ligue des Champions,
Pardon.
ce qui rend ça encore plus étonnant sur le point de vue anomalie statistique, pas forcément sur le point de vue des résultats, parce que le fait de battre un Shakhtar et Zagreb, c'était pas si incroyable que ça, et le nul contre City, bon, une équipe comme l'Atalanta peut faire sur un match nul contre City, mais c'est vrai que se qualifier avec 7 points, c'était quand même assez rare, donc du coup, même si on avait des certitudes sur l'Atalanta, sur la manière dont cette équipe joue en championnat, sur sa capacité à faire des cartons offensifs, mais finalement, il y a quand même l'impression qu'il n'y a souvent pas trop de demi-mesures avec l'Atalanta, c'est-à-dire les jours de réussite, ça en met 4, 5, 6, voire 7, et quand ça ne veut pas rentrer, bah, ça ne rentre pas, et tu restes bloqué à 0 ou 1, et c'est très compliqué. Il y a assez peu de régularité dans les performances, c'est pas à chaque match j'en mets 3 et puis du coup il suffit entre guillemets d'être bon défensivement pour gagner, donc c'est vrai que tu sais jamais trop sur quoi tu vas tomber niveau réussite, et à l'inverse du côté de Valence tu sais jamais trop sur quoi tu vas tomber tout court, parce que c'est une équipe extrêmement irrégulière. Entre le match face au Barça et le match de Sarreta fait en championnat par exemple, tu passes vraiment de tout à rien, donc du coup c'était assez intéressant de voir cet affrontement entre deux outsiders. Et là pour le coup ce qu'on peut dire c'est qu'effectivement l'Atalanta était en réussite beaucoup plus que Valence, parce qu'au final si tu regardes un peu toutes les statistiques à la fois de tir et même les stats avancées, c'est beaucoup plus serré que l'indique le 4-1. Donc là-dessus, l'Atalanta est plutôt bien payée. Après, ce qu'il faut dire quand même, c'est que l'Atalanta n'a pas tout bien joué au niveau des transitions. Donc en gros, il y a eu pas mal de supériorité numérique dans le camp adverse à l'approche de la surface, parce que l'Atalanta attaque en nombre. Donc du coup, c'est pas que des supériorités numériques sur quelques récupérations de balles. Il y a beaucoup, beaucoup d'attaques, même limite attaques placées de l'Atalanta qui se terminent par des égalités ou des supériorités numériques, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui se projettent dans le camp adverse. Et finalement, les statistiques de tir, notamment, ne disent pas tout de ce que l'Atalanta était capable de créer. J'ai notamment en tête une occasion en fin de match où Zapata oublie, je crois que c'est... Je sais même plus pour qui la passe, je dirais pas Salic, je me suis pas 100% sûr. Mais bref, c'est un 3 contre 2 que Zapata veut jouer tout seul, et s'il fait une talonnade, il vient face à face. Donc c'est-à-dire, il y a pas mal d'occasions comme ça qui n'ont pas abouti à un tir, mais tu dis avec un petit peu plus d'intelligence spatiale, ça aurait pu être encore plus dangereux. Donc à la fois le 4-1 peut être bien payé, et à la fois non, parce que il y a eu quand même quelques occasions mal jouées. Mais ouais, ce qu'on peut dire, c'est que l'Atalanta a fait de l'Atalanta, mais plus. Parce que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on aime sur cette équipe. La manière dont elle, en gros, tout le monde attaque, tout le monde défend, énormément de mouvements dans les positions. Sauf que là, c'était encore vraiment mis à l'extrême, puisqu'il n'y avait pas d'attaquant, puisque notre ami Zapata ne rentre qu'à un quart d'heure de la fin. Et du coup, la compo de départ, sur le papier en tout cas, c'est pas Salic qui serait en soutien de Papu Gomez et Ilicic. Sauf que dans les faits, Gomez et Ilicic ne jouent pas genre à 2 attaquants classiques, York Cole. C'est pair que tu peux imaginer avec un 10 derrière.
C'est limite Pasalic qui fait plus les courses que...
Bah c'est ça. Eux, en fait, ils jouent limite comme tu jouerais ailier d'un 4-3-3. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans le demi-espace et ils n'hésitent pas vraiment à jouer le long de les lignes de touche. Et comme en plus, ils aiment beaucoup décrocher. Alors, Gomez, on le sait, même là, il y a pas mal de fois. Je vais t'avoir mis une séquence sur Twitter en photo où tu vois qu'il se met à hauteur des centraux pour les aider à relancer. Donc, en fait, avec ces joueurs-là extrêmement mobiles, bah, celui qui gardait le plus sa position et qui avait position moyenne la plus élevée, c'était pas Salic, qui n'a rien d'un numéro 9. Donc, c'était vraiment le concept de faux numéro 9 poussé à l'extrême parce que c'était un peu un 9 fantôme, autant un Messi. Quitter cette zone du 9 pour aller l'investir de nouveau balle au pied, c'est juste qu'en fait il partait de plus bas souvent. Là, Pašalić n'était même pas vraiment servi en tant que numéro 9, en tant que pivot. Il était plus ou moins dans cette zone-là, mais c'est pour dire de mettre quelqu'un. Donc là, c'était vraiment faux 9 à l'extrême et tout se base sur le mouvement et sur la capacité à permuter et à attaquer un peu de partout.
Et l'Atalanta a réussi à emballer vite la rencontre, puisque c'est quand même un match qui termine à 29 tirs. C'est assez énorme en Ligue des Champions, surtout sur un match aller, où tu peux aussi partir sur du contrôle et te dire que le but encaissé peut te mettre vite en difficulté parce que tu as un match après à aller jouer à l'extérieur. Là, pour le coup, il n'y a pas eu comme souvent avec l'Atalanta, pas eu beaucoup de calculs. Et l'utilité de ces joueurs de côté comme Atubur et Gosens qui ont fait des différences, malgré le 4-4-2 de Valence, où tu pourrais te dire finalement le système de Valence va pouvoir bien défendre sur les côtés parce que tu as quand même deux joueurs dans chaque couloir qui peuvent gérer ces gars-là et tu as quand même un doublé d'Atebourg. Comment t'expliques qu'un joueur comme ça ait eu cette liberté?
Bah, je pense que Valence n'était simplement pas prêt pour défendre ce type de situation parce que, et c'est une argumentation que j'utilise aussi dans le cas du PSG, que finalement c'est pas forcément la qualité des adversaires qui importe quand tu arrives en Ligue des Champions, c'est le type de problème qui te pose chaque semaine en championnat et que tu apprends ou non à résoudre. Et c'est pour ça, par exemple, que je trouve que l'Ajax est quand même pas si mal préparé que ça dans son championnat national, parce que même si les adversaires sont généralement de niveau moindre, il y en a quand même beaucoup qui n'hésitent pas à presser, à relancer au sol. Donc ça te met quand même des types d'opposition sur le contenu, sur la physionomie qui te rapproche de celle de Ligue des Champions. Et là, l'Atalanta joue d'une façon qui est totalement différente et dont Valence n'a pas l'habitude. En plus, il y a quand même quelque chose, c'est autant. Alors Ferran Torres, un petit peu moins, même s'il peut jouer axe, mais ça serait plus en tant que numéro 10. Mais Carlos Soler de l'autre côté, donc Torres ailier droit et Soler ailier gauche de ce 4-4-2. Soler peut jouer dans l'entrejeu. C'est un peu un profil, alors un petit peu plus offensif. En gros, c'est lui, ce serait la version inverse, mais de Coquet, quoi. Coquet est plutôt un 8 qui se retrouve à jouer de temps en temps sur le côté quand il faut bloquer le couloir. Soler, il aurait pu être un profil Coquet. Il devient plus, pour moi, un joueur offensif que tu mets parfois dans l'axe, mais que tu as décidé plutôt de développer sur le côté. Mais bref, ce sont deux joueurs qui, a priori, sont quand même capables de venir densifier l'axe. Donc là-dessus, ça peut être intéressant si Ilicic, Gomez vont se recentrer. Ces deux-là sont capables, a priori, de plus ou moins bloquer le couloir et de venir en aide au milieu si jamais il y a une supériorité numérique au milieu. Le problème, c'est que les deux latéraux, Daniel Vaz et Gaia, sont quand même pas des top, top, top défenseurs. Vaz, c'est pas son poste. Il l'apprend, mais il fait encore des erreurs. Mais tu as des choses, notamment dans la gestion de la profondeur, du positionnement, qui sont assez compliquées. Et là, la gestion de la profondeur, elle est essentielle avec l'Atalanta parce que tu as toujours des joueurs qui vont te pousser à sortir sur eux, mais d'autres qui vont partir en profondeur. C'est-à-dire qu'en gros, Gomez, si on parle de son vis-à-vis dans le couloir gauche, va venir percuter. Mais ensuite, il va fixer et il va lancer Gosens en profondeur. Et donc, c'est-à-dire que tu dois être capable de savoir quand est-ce que tu dois sortir sur ton vis-à-vis, ou alors est-ce que tu dois pas le laisser et gérer le latéral qui va partir d'extrêmement loin, mais qui va plonger à toute vitesse en profondeur. Et c'est valable à la fois donc pour ces actions qui se déroulent, on va dire, d'un même côté, mais c'est aussi valable pour les changements d'ailes. Et c'est quand même constante de l'Atalanta, pas seulement. C'est vraiment un truc que tu retrouves aussi dans les équipes de Marcelo Bielsa, mais c'est-à-dire le centre d'un latéral pour l'autre latéral qui part à fond et qui plonge pour être à la réception du centre. Et à la fois Vaz et Gaia ont du mal à justement envisager le fait que ça puisse venir dans leur dos. Alors c'est pas le seul, c'est quand même un problème assez difficile à résoudre pour beaucoup de latéraux, le fait qu'il puisse y avoir un ou deux joueurs qui viennent à la réception des centres. Mais là-dessus, les deux sont plus des contre-attaquants que des joueurs à même de gérer leur zone. Si tu ajoutes à ça une charnière centrale quand même assez lourde, assez peu technique, assez peu mobile et qui en plus n'a pas l'habitude de jouer ensemble avec Diakabi Mangala, qui ont l'avantage de parler la même langue, mais Diakabi joue de temps en temps au gré des blessures et Mangala n'a absolument pas joué de la saison. Je crois, enfin, il a dû jouer un ou deux matchs, mais voilà, sans plus. En tout cas, il était vraiment là pour être quatrième défenseur central dans la hiérarchie. Tu arrives quand même sur une ligne défensive qui n'a absolument aucune habitude de jouer ensemble, et là-dessus aussi, le manque d'automatisme est quand même pénalisant.
Ouais, bah, il joue depuis quelques semaines parce que tous les autres sont absents. Mais en effet, jusqu'au 10 décembre, il avait joué 3 matchs. Deux en Liga contre Betis et Villarreal. En Ligue des Champions, c'était seulement son deuxième match là, contre Valence. Il était rentré en toute fin de match contre l'Ajax lors de la phase de poule. Côté Atalanta, est-ce qu'il y a une individualité, pardon, je vais y arriver, en dehors des évidents, des Gomez, des Ilicic, qui t'a marqué sur cette rencontre? La ligne de 3 derrière, c'était Palomino, Calderatoloy. Il y avait le duo Freuler-Rhône au milieu. Est-ce qu'un de ceux-là t'a particulièrement plu?
Alors, particulièrement plus par rapport à l'habitude, non. C'est-à-dire que j'aime Toloi, mais j'aime surtout Toloi dans sa capacité à prendre le ballon, à les percuter et puis à continuer son action. C'est ce que je dis sur Twitter. Autant des Piqué ou Ramos, parfois, vont faire des raids un peu à la Sami Traoré. Mais voilà, ils savent. En gros, ils vont jouer le 1-2, ils vont la donner, mais ils vont continuer leur course. En gros, ils le font une, deux, voire trois fois par match si leur équipe est menée. Mais tu sens que ça sort un peu du plan de jeu, que c'est une initiative individuelle qui voit qu'ils peuvent casser la première ligne à la course. Et du coup, ils se disent, bon, bah, maintenant que je suis là, je vais pas faire demi-tour et je vais créer le surnombre en se disant qu'ils ont des partenaires suffisamment bons techniquement pour pas perdre la balle et pas t'exposer sur une transition. Toloi, ça fait beaucoup plus partie du temps de jeu, du plan de jeu, ce dépassement de fonction où il va aider et faire des appels en profondeur de vrais attaquants. Faut noter quand même que Caldara remplace Jim City au dernier moment. Puisque je crois que Jim City se pète à l'échauffement, il me semble. Donc, du coup, la ligne de 3 est pas la même. C'est-à-dire que normalement, en plus, Palomino serait plus celui qui reste en couverture. Et en plus de Toloi, il aurait Jim City qui ferait aussi un peu la même chose. Peut-être un tout petit peu moins de projection, mais voilà, la même chose de l'autre côté. Alors que là, bon, Palomino est beaucoup moins capable de le faire. Et Caldara est un bon défenseur, mais voilà, sans plus, c'est pas forcément le même rôle. Donc, tu as en plus perdu une partie de ce dépassement de fonction depuis l'arrière. Mais non, globalement, en fait, il n'y a pas tellement de surprises parce que tout le monde est à peu près à son maximum et fait en gros ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire que Ilicic fait un bon match d'Ilicic, voire un très bon match d'Ilicic, mais tu sais ce que c'est juste que bon, tant mieux qu'il l'ait fait sur cette rencontre-là. Mais on le connaît en tant qu'interprète de l'espace, finalement, un peu à sa manière. Dans cette équipe de l'Atalanta où il bouge partout, j'ai limite plus envie de souligner en gros le plan de jeu et le fait d'arriver à être pertinent et de faire quelque chose d'intéressant en huitième de finale de Ligue des Champions en jouant pour boucler la boucle avec plus ou moins Pašalić en pointe. Des fois, il y avait même des inversions et c'était De Roon qui se retrouvait en pointe. Alors voilà, pointe, finalement, il était à 40 mètres du but parce qu'il n'y avait personne dans l'axe sur les 40 derniers mètres et que ça bougeait, ça tournait, mais globalement, ça partait surtout des côtés parce que l'Atalanta joue quand même surtout sur les côtés. Ça finit dans l'axe, mais ça ne passe par l'axe, ça ne passe pas par l'axe dans les 30 derniers mètres, mais c'est surtout ça, en fait, surtout la force du plan de jeu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelques oublis défensifs, quelques erreurs individuelles ou des erreurs systémiques qui font que bah, quand tu attaques à 7 ou 8, forcément sur la transition derrière, ça peut être un petit peu compliqué. Mais quand tu vois certaines erreurs ou limites des plans de jeu, notamment celui de Tourelle avec le PSG où tu te demandais un petit peu ce qui voulait être fait, réussir à avoir une équipe quand même composée de bons joueurs, mais qui sont des joueurs de second rang à l'échelle vraiment internationale, être capable d'avoir un plan de jeu aussi abouti. C'est vraiment très intéressant et c'est pour ça que je me fais pas trop de soucis pour la qualif éventuelle au match retour. Parce que même si là t'as laissé pas mal de situations à Valence avec un meilleur Maxi Gomez et s'il y avait eu en plus Rodrigo, ça aurait peut-être pu faire 4-3 voire 4-4. Je pense qu'au retour, avec la même physionomie, l'Atalanta sera capable de marquer 1, 2, 3 buts et j'imagine pas que ça en prenne 7. Donc a priori, pour moi, il y a une marge assez intéressante et cette équipe-là a tellement de certitudes tactiques que ça reste au-delà du résultat vraiment un bonheur de l'avoir évolué.
Est-ce que tu les vois capables de faire un parcours en mode Ajax, c'est-à-dire avec un plan de jeu et un projet de jeu même très fort, des individualités en forme, les voir capables d'aller taper plus haut que Valence, et d'aller taper, je sais pas, des Juves, des Real comme l'avait fait l'Ajax la saison dernière?
Alors, il y a quand même une variable dans le parcours de l'Ajax, c'est qu'il y a. Alors, je vais pas dire que tout tourne bien, parce que ça serait un petit peu exagéré, mais tu avais quand même une capacité sur les matchs à l'extérieur quand tu étais obligé de renverser la tendance à marquer tes occasions, qui étaient assez rares pour une équipe de ce profil, où généralement les équipes qui courent beaucoup, qui pressent, perdent un petit peu de leur lucidité et ont besoin d'un plus gros volume d'occasions pour s'en sortir et finissent par être rattrapées par le talent individuel de l'équipe d'en face. Alors qu'à l'inverse, voilà, une équipe qui va plutôt défendre et va essayer de mettre des contre-attaques, ben, les attaquants vont un peu vont un peu se reposer, entre guillemets, et du coup, il y a quand même souvent l'impression que ces équipes-là seront un peu plus létales, un petit peu plus efficaces à la finition. Donc l'Ajax a montré quand même une voie. Après, je pense que si tu refais les matchs de l'an dernier, je ne suis pas sûr que ça passe forcément un, voire deux tours. Donc est-ce qu'il y a vraiment un schéma que tu peux reproduire? Je ne sais pas, toujours est-il que l'Atalanta est capable de mettre un bouillon dans le jeu à n'importe qui. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Après, il y a une prise de risque sans ballon. Bah avec ballon, enfin je l'ai dit, ça attaque à 7 ou 8, donc c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde en couverture et ça demande énormément d'efforts physiques. Mais là-dessus, les joueurs sont capables de le faire et ont l'habitude de défendre des grands espaces. C'est surtout sans ballon, c'est-à-dire contre City, on l'a vraiment bien marqué. Est-ce que le fait d'aller presser en individuel dans le camp adverse avec 5, 6, 7 joueurs pour empêcher la relance, quand t'es face à Valence, Valence va relativement vite abdiquer, surtout avec une charnière comme ça, et va te rendre la balle et t'attendre en bloc médian, et c'est plutôt de jouer des transitions, si vraiment il n'y a pas la possibilité de relancer proprement. Il y a des équipes type Manchester City, si Manchester City se qualifie, qui vont faire pas de souci, on accepte ce bras de fer-là, on prend le risque de relancer sous pression. Par contre, si on casse ton pressing, après il y aura des boulevards. Et c'est ce qu'on a vu sur la phase de poule, sachant que le 1-1 est plutôt bien payé dans la mesure où City a le penalty du 2-0. Ensuite, la dynamique s'inverse un peu, mais limite tu peux imaginer un même match qu'à l'aller où City l'emporte 5-1. Voilà, c'est vraiment, est-ce que les équipes seront capables de prendre ce risque-là? Parce que si tu arrives à casser le pressing de l'Atalanta, tu es encore beaucoup plus dangereux que sur des transitions, parce que les transitions, ça dépend de ta capacité à récupérer la balle et de l'Atalanta à ne pas, en gros, réussir à défendre en catastrophe, mais c'est une habitude qu'ils ont prise. Alors que des phases où ça commence sur un 6 mètres et où tu arrives à casser le pressing, ça peut se répéter 5, 10, 15 fois dans un match. Et là, ça dépend que de toi. C'est toi qui es en possession du ballon. Donc, si tu arrives à mettre un plan de jeu qui casse le pressing de l'Atalanta, ça risque d'être très compliqué. Mais forcément, tu n'affrontes pas cette équipe comme tu en affrontes une autre. Et tu sais qu'il faut se méfier parce que dans un jour de réussite, ça peut défiler encore plus que ça n'a défilé face à Valence. Surtout si Zapata revient, se retrouve titulaire en bonne forme. Où là, en plus, tu pourras avoir un numéro 9 capable de marquer une vingtaine de buts en Serie A et donc de frapper en Ligue des Champions.
Ouais, parce qu'ils sont à 55% de possession en Serie A, à voir s'ils se retrouvent en Ligue des Champions contre une équipe qui les mettra à 45-40. Comment ils vont s'adapter à ça. Côté Valence, est-ce qu'il y a un point que tu voudrais noter avant qu'on passe à Tottenham Leipzig, le bon match de Ferran Torres malgré la défaite, les difficultés de Celades a vraiment créé une dynamique qui continue ou des performances individuelles un peu décevantes? On pourrait parler du niveau de la charnière, mais tu l'as déjà un peu fait. Sur quoi t'aimerais insister?
Bah, à dire, mais ça, c'est, j'en ai déjà parlé, donc pas insister, que, en fait, j'ai l'impression que Celades vit quand même beaucoup sur le travail de son prédécesseur, Marcelinho. Je suis pas forcément sûr que Celades aurait été capable, par lui-même, de mettre un plan de jeu aussi efficace que celui des saisons précédentes, et je pense que les résultats après sa venue, en gros, son objectif principal, c'était de se faire accepter du groupe, d'un groupe qui ne voulait pas que l'entraîneur précédent parte. Et là-dessus, il l'a plutôt bien fait. Mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des semaines, ça devient de plus en plus compliqué, finalement, de faire évoluer le projet de jeu. Alors, il aurait eu tort de défaire ce qui avait été fait. Le truc était fonctionnel, donc c'était logique de le laisser. Maintenant, j'ai l'impression qu'au moment où il faut un peu relancer tout ça, il a un peu de difficulté à se réinventer. Deuxième mini point, Parejo contre Ndombele. Parejo, tu peux voir parfois qu'il manque un peu de volume physique, de capacité à répéter les efforts. C'est un super joueur pour faire des passes. C'est vraiment le 10 reculé qui se retrouve dans un double pivot, a priori bien protégé par son compère. Mais Ndombele a parfois quelques soucis, pas forcément dans le volume de course, mais dans la manière dont il sort. Parfois, il a tendance à sortir à contre-temps, un peu dépasser sa fonction alors qu'il ne devrait pas. Donc, face à une équipe qui fait autant de courses, tu peux voir le fait que Parejo n'est pas forcément au niveau, parce que si son équipe a 60% de possession, il est un peu plus, il est un peu moins exposé que là. Mais surtout dire que Guedes, c'est très compliqué, que je comprenais parfaitement son transfert à Valence, parce que quand il est prêté par le PSG, il est vraiment top en tant qu'ailier, il peut même jouer deuxième attaquant, mais en tout cas, c'est vraiment le joueur qui va vite, qui prend la balle, qui percute. De manière assez binaire et pas forcément montrant un QI footballistique incroyable, sauf qu'à partir du moment où tu passes, bah tu passes. C'est de manière un peu différente, Kingsley Coman, à partir du moment où il réussit ses dribbles, bah il fait entre guillemets pas énormément de choses sur un terrain, mais il dribble, il centre. Si t'es incapable de défendre son dribble et que ses centres sont pertinents, bah voilà, ça devient un très bon joueur à niveau européen. Et là, Guedes n'a plus ça, et depuis, alors il s'est pas mal blessé, perte de confiance, peut-être transfert à digérer, j'en sais rien, mais Guedes est extrêmement extrêmement loin du niveau qu'il pouvait avoir sur son prêt à Valence. Et là, c'est compliqué parce que quand tu animes ton équipe avec un 4-4-2 et que lui se retrouve deuxième attaquant parce que tu peux très peu compter sur Rodrigo cette année, il y aurait peut-être mieux valu avoir un Gamero que ce Guedes-là. Alors tu sais jamais trop sur quoi tu vas tomber. Sauf que là, ça fait quand même quelques semaines, quelques mois, voire même un peu plus d'un an, qu'il est absolument pas au niveau, et ça questionne un peu sur quel est le véritable niveau moyen et niveau plancher de Guedes, parce qu'il y a vraiment des énormes écarts types entre ces top matchs et ces très mauvais matchs.
Et il a dépassé qu'une seule fois les 2000 minutes sur une saison depuis qu'il est pro. C'était la saison réussie à Valence, où il fait 2400 minutes en championnat, 5 buts, 9 passes D. Mais à Paris, il a une saison quasiment blanche. Ensuite, il est prêté, donc à Valence, il fait ses 2400 minutes. La saison dernière, il en fait 1500 en Liga, il rate pas mal de matchs. Et cette année, il n'est qu'à 535 minutes en Liga. Donc, à voir aussi s'il a des problèmes récurrents de blessures, parce que ça peut le faire prendre comme retard. Il a à la fois déjà et que 23 ans. C'est un âge assez bâtard dans le foot aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on l'a un peu perdu de vue depuis sa super période en feu, où j'ai l'impression qu'en plus il fait la moitié de ses stats de la saison réussie sur une période de 6 semaines.
Ouais, c'est un peu une Alain Traoré sur la capacité à être vraiment très bon pendant une bonne période, pendant une courte période, et ensuite pas forcément être mauvais, mais être moyen. Et en gros, tu restes un peu sur l'idée qu'il était vraiment bon les semaines précédentes. Donc du coup, tu mets, y a toujours ça en fait, quelqu'un de bon pendant 6 semaines, il te faut ensuite 4-5 semaines où il est vraiment mauvais pour que tu commences à t'interroger, sinon tu vis un peu sur le souvenir de ses bonnes perfs.
Ouais. Passons à Tottenham Leipzig avec donc la... Comment tu l'as appelé l'autre fois sur la conversation, je ne sais plus, le maître d'Europe, le roi de l'Europe, je ne sais plus, Julian Nagelsmann, qui continue
de
briller.
J'aime beaucoup louer parce que alors disons-le, tu as un problème avec son apparence physique. Son apparence physique t'énerve un peu. Donc du coup, j'aime bien l'appeler Julian le BG et louer ses talents pour t'embêter.
Non, oui, je sais pas. Il faudrait qu'on... Alors j'ai vu que notre ami Zénon, Hugo Hélin, avait lancé un concours de bagarre d'entraîneurs en Europe, là, un débat sur qui serait le meilleur bagarreur. Nagelsmann, par exemple, ne serait pas le meilleur mannequin, je pense. Même si, voilà, il a peut-être un charme que je ne comprends pas. Mais passons au football, avec donc cette victoire 1-0 de Leipzig à Tottenham. Alors, Tottenham n'est pas une équipe brillante contre les gros depuis quelques temps. Depuis finalement sa finale de Ligue des Champions. Là, pour le coup, au-delà du score, vraie, vraie domination des Allemands. Christophe, à travers le jeu, à travers les principes, la circulation du ballon. On a limite vu une équipe prête pour ce niveau de compétition et une qui ne l'était pas du tout et qui d'ailleurs vit encore sur ses résultats positifs de la première partie de saison dernière, mais qui là, et on l'a encore vu contre Chelsea, on pourra en parler après, est complètement dépassée face à ce niveau de compétition et des collectifs aussi forts.
Ouais, en fait, ce qui m'a vraiment fait plaisir, et c'est quelque chose que je regrettais, alors un petit peu sur la première phase, même si Leipzig, voilà, s'est qualifié, mais encore plus la saison dernière, où, de manière générale, je suis toujours un peu triste quand des équipes n'arrivent pas à produire au niveau européen ce qu'elles font pas au niveau national. Alors parfois, tu peux dire, bah, c'est simplement qu'elles ont pas réussi à passer le cut, mais quand tu voyais, notamment contre Lyon, les erreurs de Leipzig, tu te dis, il n'y avait pas forcément plus de pression, c'est simplement, je sais pas, niveau mental ou manque de chance. Mais pareil au final la saison dernière, enfin, t'avais des erreurs qui sortaient un peu nulle part et tu te disais, bah mince, cette équipe-là, normalement, elle fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Là, clairement, Tottenham a joué comme Tottenham et Leipzig a joué comme Leipzig. Et c'est intéressant que tu mentionnes le match du week-end de Tottenham face à Chelsea, où t'as vraiment une redite dans la manière dont cette équipe joue. Alors, pas 100% au niveau micro-tactique, mais au niveau macro, la hauteur de bloc, la manière dont cette équipe refuse, entre guillemets, d'attaquer. Enfin, t'as beaucoup de parallèles que je peux dresser. Et même chose pour Leipzig. C'est-à-dire que j'ai regardé le match de Leipzig, la victoire 5-0 à Schalke, là, ce week-end. Et Leipzig a joué exactement de la même manière, à la fois dans le système, à la fois dans les hommes, parce que t'avais un seul changement, Mpadou, qui était, voilà, qui remplaçait Upamecano, suspendu et remplacé par Upamecano sur le championnat, et la performance, tout est exactement pareil, les zones occupées. Donc là-dessus, déjà, ça m'a fait plaisir de voir que t'as aucune équipe qui était en sous-performance ou en sur-performance par rapport à l'événement, que personne n'a été pris et que t'as eu le véritable rapport de force entre les deux équipes. Et le rapport de force, c'est que, un, Tottenham est alors forcément impacté par ses blessures, parce que tu joues pas de la même manière quand t'as Kane et Son, surtout Son à la limite, parce que, enfin, en tout cas, Kane, ça serait plus pour moi dans le contenu, dans la production offensive, ta capacité, si tu as trois occasions, à peut-être en marquer une, mais suis pas sûr qu'avoir Kane finalement augmentera tant que ça le nombre d'occasions que tu te procureras dans un match à partir du moment où Mourinho joue la sorte, alors que pour moi Son peut justement faire passer ton nombre d'occasions de 3 à 6. Je sais pas si je me fais voilà, si je me fais vraiment comprendre, mais pour moi Kane influe plus sur le taux de réussite que sur le nombre de chances que tu auras. Mais ce qu'on a vu, c'est quand même l'équipe de Leipzig qui pendant 70-75 minutes, c'est un peu pareil que l'Atalanta, c'est-à-dire que c'est un peu difficilement du côté de l'Atalanta parce qu'il y a beaucoup d'efforts physiques. Pour Leipzig, c'est pareil, la première ligne avait de plus en plus de mal à cadrer et l'entrée notamment de Ndombele hein, du côté de Tottenham a fait que bah c'était encore plus facile de casser la première ligne. Donc du coup, Leipzig qui vraiment étouffé. Tottenham a eu un petit peu plus de mal sur la fin de match, mais pendant 75 minutes, c'est une domination totale, c'est vraiment une leçon. Alors, leçon donnée à Tottenham, mais sinon, leçon tableau noir de comment animer un 3-4-3 du côté de Leipzig, parce que tu as tous les couloirs qui sont occupés, c'est-à-dire les deux ailes, l'axe et les deux demi-espaces à droite et à gauche. T'as toutes les hauteurs aussi au niveau vertical, c'est-à-dire que t'as beaucoup de solutions de relais parce que c'est pas simplement trois lignes, la défense, le milieu, l'attaque. T'as des joueurs qui se proposent entre l'attaque, enfin t'as plusieurs hauteurs, t'as Werner et Nkunku qui vont décrocher par rapport à Schick qui va jouer en appui, t'as Sabitzer et Leimer qui vont être à différentes hauteurs pour soutenir les défenseurs, des défenseurs qui seront capables de porter la balle, surtout en Padoue, enfin bref. T'avais en gros toutes les leçons que tu peux avoir du jeu de position dans un 3-4-3 moderne, contrairement au 3-4-3 de Cruyff qui était vraiment un petit peu trop tourné vers l'offensive et qui serait plus forcément pertinent aujourd'hui. Et là-dessus, c'était... Alors, c'est pas le même 3-4-3, mais quand t'as vu, j'en reviens à celui de Paris, je suis désolé, mais la façon dont on jouait ces deux équipes-là dans des systèmes qui se rapprochaient beaucoup, c'était vraiment très intéressant et t'as beaucoup de... Comme en plus Tottenham opposait pas forcément beaucoup de résistance, c'était plutôt dans son bloc relativement bas, médian bas, mais surtout bas. Bah finalement, c'était Leipzig qui faisait tourner et qui jouait limite comme s'il n'y avait pas d'opposition. Et en gros, le test, c'était une fois que tu approchais de la surface, est-ce que tu arriverais à faire les bons choix ou pas. Mais il y avait entre guillemets rien en face dans le sens où Tottenham n'a pas forcément essayé de casser le plan de jeu de Leipzig. Donc du coup, bah, s'il était bien exécuté, il y avait des occasions. Et puis s'il était moins bien exécuté, bah, Tottenham avait une situation et là, c'était à Leipzig de presser à la perte. Et alors, tu peux dire certains trucs sur des performances individuelles de Leipzig parce que techniquement, tout le monde n'est pas parfait. Mais ton système était tellement dominant sur cette rencontre-là que finalement, les occasions que tu ratais, bah, elles se représentaient 2-3 minutes après. Il n'y a que 1-0 parce que Lloris a été bon, parce que tu as un petit peu gâché. Mais le rapport de force est quand même bien différent. Et si tu fais un match un peu simulé où Lloris est peut-être pas forcément en feu, je pense qu'il y a 3-0 parce que tu as beaucoup, beaucoup de situations qui sont ratées par le Razon Ballsport.
Mais je vais te poser à peu près la même question que sur l'Atalanta. Est-ce que vu la force du collectif de Leipzig qui travaille avec énormément de certitude et de suivi, tu les vois peut-être déjà se qualifier au retour contre Tottenham et pourquoi pas bousculer des plus gros ou des plus riches grâce notamment à cette force insufflée par l'entraîneur?
Bah en fait, là, j'ai vraiment l'impression que cette équipe-là, elle est en train de passer un cap. Alors, trouver un système, c'est difficile à dire parce que connaissant Nagelsmann, dans une semaine, il fera quelque chose de différent. Donc là-dessus, c'est incertain. Mais tu as des énormes progressions individuelles. Alors, bon, on sait que certains joueurs comme Nkunku sont capables de jouer à tous les postes. Nkunku a quand même joué à 6 postes. Il a joué à la fois latéral et attaquant de pointe. Il a joué milieu de terrain plutôt offensif, meneur de jeu, plutôt défensif. Il a joué dans les deux couloirs. Enfin bref, il est... Quelqu'un comme ça montre toute la force qui peut amener, tout le talent qui peut amener un système de jeu, parce que à partir du moment où tu as comme ça plusieurs pièces que tu peux déplacer un peu partout, bah ça donne des opportunités pour changer de système en cours de jeu si jamais ça fonctionne pas. Là, Werner jouait quand même plutôt demi-espace, parfois il décrochait, alors c'était pas toujours pertinent parce que ça reste avant tout un attaquant et que ses qualités techniques dans les petits espaces c'est peut-être pas suffisante pour que lui puisse un peu se muer en meneur de jeu. Donc là-dessus, il y a des incertitudes. En fait, sur le plan de jeu et sur la capacité de l'entraîneur à s'adapter, pour moi, Leipzig peut rivaliser avec quasiment tout le monde. Après, c'est autant l'Atalanta, ce qui m'inquiète, c'est que ce plan de jeu extrême peut te porter préjudice. Pour Leipzig, je m'inquiète pas trop parce que Nagelsmann, c'est contre le Bayern en première période, sur le dernier match de championnat, il avait quand même beaucoup laissé la balle, je crois que ça doit être quelque chose comme 25% de possession, et ça le dérangeait pas, et il sait être pragmatique, on va dire, c'est-à-dire que s'il faut défendre, il défendra, il aura pas de dogmatisme là-dessus sur le fait de, il faut absolument presser, absolument avoir la balle. Là où il y a plus d'incertitude, finalement, c'est sur les individualités, en fait. Quel est le véritable niveau de Mukiele? quel est le véritable niveau d'Angelinho. Je prends ces deux-là parce que c'est deux joueurs de couloir et deux, on va dire, relatives nouveautés à ce niveau-là. Parce que Nkunku, ça fait quand même quelques mois, quasiment depuis son arrivée, qu'il est vraiment très bon. Donc du coup, tu te dis, bon, bah, Nkunku, tu pourras compter sur lui. Alors, il fera peut-être pas quatre passes décisives comme il a fait ce week-end en championnat, mais tu sais ce qui est capable de t'amener Nkunku. Limer, tu commences à avoir des certitudes. Zabitzer, pour moi, c'est vraiment un excellent joueur. Donc, et ou pas Mécano, j'en parle pas, il fait vraiment une saison incroyable. Donc là-dessus, pour moi, tout ça, c'est les valeurs sûres. Maintenant, ton système, en tout cas animé comme ça, dépend beaucoup des joueurs de couloir. Moukielé, les supporters montpellierains se souviendront de lui. Il est capable de beaucoup courir. Maintenant, notamment dans sa qualité de centre, il y avait parfois des choses assez étonnantes. Et techniquement, il a vraiment passé un cap du côté de Leipzig. Mais pour moi, ça reste encore un joueur pas totalement fini sur ce point-là. Il n'est pas passé de joueur moyen techniquement à légende. Et je pense que si tu le presses, ça peut devenir compliqué pour lui et ses qualités de centre, elle vient d'un match à l'autre. Pareil, Angelinho de l'autre côté.
Est-ce qu'on peut parler de ma pépite ? Parce que je ne sais pas si tu te souviens, Christophe, mais lors du podcast Mercato, je l'avais envoyé je ne sais plus où, Angelinho, je ne sais plus, il y avait un club qui avait besoin d'un latéral gauche ou c'était un joueur à suivre, je ne sais plus. J'avais parlé de lui parce que j'avais bien aimé ses performances contre Liverpool, notamment en championnat, et j'avais pas trop compris que City s'en sépare aussi vite alors qu'ils sont à la recherche vraiment d'un latéral gauche fiable depuis quelques temps. Qu'est-ce que tu as pensé de sa perf? Je crois que tu as été plutôt enthousiasmé.
Ouais, je suis vraiment enthousiasmé par lui depuis qu'il est arrivé. Alors j'en discutais avec Julien qui comprenait pas, parce qu'il a un peu aussi suivi les matchs, j'ai un moment qui comprenait pas forcément pourquoi tu gardais Benjamin Mendy et que tu virais Angelinho. Après, il y a aussi des questions de prix de transfert et d'ego qui peut-être entrent en ligne de compte. Mais c'est vrai que l'Angelinho, sur ce que tu vois, il a pas forcément énormément envie à Benjamin Mendy. Alors je pense aussi que le système le met quand même assez en valeur et que la domination tactique fait qu'il a à peu près tout le temps des espaces à exploiter. Donc il profite de quelque chose que le système lui donne. C'est pas forcément lui qui doit aller se créer lui-même les espaces ou qui doit gagner d'un contre un.
On rappelle quand même que c'est 15 passes décisives sur les deux dernières saisons en Eredivisie, puisqu'il avait joué les deux saisons à Breda puis au PSV. Et donc il était arrivé à City cet été, il avait pris un peu de temps de jeu parce que Zinchenko était pas dispo, Mendy était blessé, mais c'était la troisième option de l'effectif.
Ouais, en fait, je vois deux trucs pour sa non-intégration à City. C'est que, un, il a, je trouve, en gros, c'est pas forcément un défenseur de défense à 4. Là, quand tu défends à 3, ou alors quand tu défends à 4 en Bundesliga, où c'est quand même un petit peu plus offensif. C'est pertinent, mais ça reste un peu l'école Marcos Alonso, quoi. Il est extrêmement offensif. Là, tu regardes encore le but qu'il a marqué contre Chelsea ce week-end. Il se projette et puis il va faire un petit dribble et une frappe angle fermé. C'est pas une attitude de latéral. C'est une attitude de piston, voire d'ailier, mais en tout cas de joueur offensif. Il a beaucoup plus de qualité dans le camp adverse que dans son propre camp. Et s'il est dans une équipe qui doit défendre parfois, alors même si il a généralement le ballon, mais enfin, en tout cas, je pense qu'il a quand même certaines limites qu'on voit beaucoup moins du côté de Leipzig parce qu'il a trois mecs en couverture en défense centrale. Que du côté de City s'il était en défense à 4. Et deuxièmement, il ne doit pas se replacer dans l'axe, ce que peut demander Guardiola à ses milieux de terrain. Enfin, c'est latéraux qui se retrouvent au milieu de terrain sur certaines phases. En tout cas, même s'il ne le fait pas forcément à tous les matchs, c'est des choses qui peuvent être amenées à demander. Et c'est pour ça que Zinchenko était régulièrement intéressant, parce que ce n'était pas un vrai latéral. Mais quand tu le mettais au milieu, bah, c'était son poste, donc du coup il était capable de bloquer le milieu et de venir aider et de faire en gros l'articulation du côté au milieu sans problème. Angelinho, on ne demande pas ça et je pense qu'il n'était pas capable de faire ça à City. Là, bah, il est dans son couloir et il déboule, il court à toute vitesse et soit il multiplie les centres, soit il va frapper. Mais c'est un rôle, voilà, à Marcos Alonso, à la même limite Daniel Alves par certains côtés, même s'il touche beaucoup moins le ballon, mais sur sa position moyenne, quand Daniel Alves était du côté de Barcelone. Et
ce que faisait Kaderabek aussi à Hoffenheim avec Nagelsmann déjà, côté droit, mais c'était un peu. Parce que Schultz c'était un joueur différent quand même, qui pouvait jouer dans une défense à 4.
Ouais, Schultz, qui est un peu disparu de la circulation, il joue pas du tout à Dortmund, alors que tu aurais pu imaginer que, avec l'articulation de Dortmund, bah après Guerreiro, j'ai l'impression, fait la même chose en mieux. Mais c'est vrai qu'Angelinho a trouvé le meilleur contexte, mais tu le vois tellement bon, et c'est ça qui me faisait un peu marrer, c'est que je me dis, là, il se retrouve en prêt à Leipzig, j'ai tendance à penser qu'il fera, non seulement il est passé de remplacement titulaire, mais que Leipzig ira plus loin en Ligue des Champions que City.
Ok, mais peut-être qu'ils s'affronteront, on verra, ça peut être un match intéressant. Je sais pas si dans ce cas-là, Angelinho aura le droit de jouer, parce que je connais pas la clause du contrat, c'est quoi, c'est une option d'achat qu'ils ont sur la fin de la saison.
Pas
À
du tout,
15
donc
ou...
je ne vais pas te dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a une option à 15 ou 20, non?
Ouais, 15 ou 20. J'allais dire exactement la même chose. Ouais, 15 ou 20 millions, ouais, à peu près. Ce qui est plutôt pas mal pour un latéral de ce niveau et de cet âge-là, puisque tu
Ah
peux te...
bah, sincèrement, hein, je pense que si tu l'achètes maintenant, t'as des gens qui te proposeront 25 ou 30, hein. Je suis persuadé que sur ce qui monte depuis, alors c'est un mois, l'échantillon est vraiment très faible, mais le poste de latéral est quand même, alors pas forcément sinistré, mais est quand même assez recherché. Et en plus, là tu le vois, là si tu réfléchis 30 secondes sur les matchs de Ligue des Champions qu'on a vus, il y a quand même beaucoup beaucoup de défense à 3. Donc un joueur comme ça qui te montre qu'il est capable d'être piston, si tout le monde se met à jouer à 3, ça sera encore plus couru que le défenseur latéral Abidal qui est surtout chargé de bien défendre. Là, il y a quand même presque plus de joueurs à la Mukiele qui sont plutôt défensifs, à qui tu apprends à attaquer, que de véritables pistons naturels. À la Marcos Alonso qui sont vraiment dans cet entre-deux, à la Cristian Maggio qui est encore titulaire à Benevento à 38 ans, on le salue. Donc voilà, vraiment ouais, joueur très intéressant. Oui, je parle de Benevento car j'ai un peu suivi les résultats de Benevento récemment.
Un dernier mot sur ce match avant qu'on passe à la Ligue Europa où il y a vraiment une rencontre qui nous a intéressés.
Un dernier mot, ouais,
Ça peut
pour
être sur
dire
les
quand même que.
remplaçants de Leipzig qui ont quand même, il y a quand même un beau banc du côté de Leipzig. Il y avait du Forsberg, du Haïdara, du Poulsen, du Olmo sur le banc, sur Tottenham, mais on va peut-être en reparler un peu avec le match contre Chelsea. Une performance, un principe, Mourinho, quelque chose qui t'a.
Ouais, aller dire que Mourinho se plaint de ne pas avoir d'attaquant. Alors, je comprends la logique, même si Lucas Moura s'est retrouvé régulièrement en attaque ces dernières saisons. Donc, c'est pas 100% un attaquant, mais dans l'absolu, il y a d'autres équipes qui jouent avec des profils comme ça en attaque et qui seraient assez contents de l'avoir. Peut-être pas forcément 8e de Ligue des Champions sur les équipes engagées, mais voilà, il n'est pas non plus totalement démuni. Il a aussi un bon milieu de terrain. Tu peux jouer avec Winks, Lo Celso, Ndombele. C'est pas la folie absolue, mais c'est quand même suffisant pour être à peu près, on va dire, compétitif en 8e de finale de Ligue des Champions. Mais en gros, il se plaint beaucoup de ne pas avoir d'attaquant. Mais si tu. Un, l'Atalanta a montré que tu pouvais faire du foot sans, entre guillemets, d'attaquant. Même si, bon, tu me diras, l'Atalanta a eu beaucoup plus d'années pour répéter ses systèmes de jeu et ses circuits que Tottenham, mais il y a d'autres. En fait, il y a plusieurs possibilités de jouer au foot et la façon assez réactive de procéder de Mourinho. Un, déjà, même si t'as pas d'attaquant, à partir du moment où t'aurais toute ta charnière défensive et tous tes titulaires habituels, bah tu serais censé, si tu défends bien, ne pas prendre de but, en tout cas laisser beaucoup moins de situations à l'adversaire. C'est-à-dire le fait de ne pas forcément avoir d'attaquant t'empêche pas de bien défendre. Et Tottenham défend beaucoup, mais pour moi ne défend pas bien. J'estime qu'il y a le relatif faible nombre de buts encaissés est plus circonstanciel qu'autre chose. Je pense pas que là le fait de prendre qu'un but, ça soit né du fait que Tottenham défend beaucoup, enfin défend bien. Je pense que c'est surtout né du fait que Leipzig a raté des choses et que Tottenham a beaucoup défendu, donc mécaniquement c'était un petit peu moins exposé. Et puis si tu veux pas faire un bloc assez réactif, bah tu peux tenter de presser. Alors je sais bien que Mourinho a un peu abandonné cette idée, mais si tu t'estimes que t'as pas d'attaquant, bah, essaye de récupérer le ballon plus haut et fais en sorte que tu aies beaucoup de joueurs dans les derniers tiers de terrain adverse. Et en te disant, bah, ces joueurs-là, un, c'était quand même la façon de faire de Pochettino pendant pas mal d'années, même si là en début de saison c'était plus compliqué de remettre cette intensité-là. Mais si Lucas Moura était bon, c'était aussi parce que il récupérait la balle assez haut et qu'il n'avait pas à faire 50 mètres avec en conduite de balle, et que Dele Alli n'est pas forcément un joueur de contre-attaque. Il est plus intéressant pour interpréter les espaces dans les 30 derniers mètres si tu es en phase offensive. Voilà, son bon positionnement, son jeu en déviation, mais c'est pas un numéro 10 de contre-attaque. Et voilà, bah, essayez peut-être de faire autre chose. Je sais pas, je comprends que ce soit chiant de ne pas avoir d'attaquant, mais si tu récupères la balle à 30 mètres du but adverse, le fait de ne pas avoir d'attaquant se verra beaucoup moins. Donc voilà, assez attristé par ce que fait Mourinho, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a du mal à évoluer depuis toutes ces saisons, et que même si ses résultats sont jamais infamants, il reste sur l'idée, c'est ce qu'on avait dit avec Florent dans le podcast de présentation de ses huitièmes de finale, t'as vraiment l'impression que là il visait le 0-0 à domicile, et l'excuse, entre guillemets, l'explication de l'effectif s'entendrait si c'était pas ce qu'il cherchait à faire sur à peu près tous les huitièmes de finale de la Ligue des Champions depuis des années.
Puis c'est sa méthode depuis quelques années, le discours de on n'est pas si bon que ça, donc ça justifie ce que je vais faire. C'est sa méthode depuis pas mal de temps. Ce qui est dommage parce qu'à l'époque, quand il commence avec Porto, c'est plus on est aussi bon que les gros, donc on va aller les taper. Et ça a
Oui.
vraiment changé, ça a basculé de l'autre côté.
Ouais, ils survalorisaient des mecs qui étaient bons, mais
Et qui rendait
pas encore
meilleur finalement. Il arrivait à les
réputés, et
rendre
ils les rendaient
meilleurs
meilleurs. Et
et
ensuite,
aujourd'hui.
ils prenaient des grognards et ils leur disaient, bon, on vous a un peu enterré, Snyder, Stankovic, on vous estime pas suffisamment bon pour vraiment passer le dernier cap. Lucio, on te voyait surtout comme quelqu'un qui partait dans des montées un peu freestyle, mais je veux que tu montres que tu es aussi capable de défendre. Et là, ils jouaient sur l'orgueil de joueurs qui avaient un peu plus prouvé, et ça fonctionnait. Et là, en fait, il est sur un troisième truc. Il fait presque ce qu'il reprochait aux médias sur ses précédentes. Et visiblement, il touche pas la bonne corde sur le plan du discours et sur le plan tactique. J'avoue, j'ai beaucoup de mal à voir véritablement quelque chose de supérieur dans ses équipes qui le rendrait meilleur qu'un entraîneur tout à fait lambda. Enfin, tu vois, je vois pas beaucoup plus de choses chez Mourinho que je n'en voyais à l'époque chez Bruno Genesio, quoi.
Ouh, c'est un véritable take que tu viens de
Et...
faire. Je vais m'en remettre à la Ligue Europa pour survivre à ce take. Et je vais te donner quelques chiffres, Christophe. Et puisque tu as vu le match, tu vas devoir les expliquer sur cette rencontre Rétafé-Ajax. Victoire 2-0 de Rétafé avec 11 tirs à 2 pour Rétafé. 65% de possession pour l'Ajax. 56% de passes réussies pour Rétafé. Essaye de me lier tout ça, de m'expliquer pourquoi et comment Rétafé a gagné 2-0. Cette rencontre, malgré et grâce à ces chiffres, puisqu'on dit 11 tirs à 2, mais seulement 35% de possession et 56% de passes réussies.
T'as oublié une stat aussi, enfin tu l'as pas oublié, tu n'es peut-être pas tombé dessus, qui est le temps de jeu effectif sur cette rencontre,
Non, je ne l'ai pas vu. Je suis hors de
qui est
moi.
le deuxième plus faible de l'histoire de la Ligue Europa, sous le nom de Ligue Europa j'imagine, enfin, ou depuis 10 ans, enfin bref, en tout cas c'est quasi un record et je crois que ça en est vers les 40 minutes.
Ah oui. Ah oui, sachant que la moyenne, c'est
C'était...
54 ou 56 minutes, je crois, sur un match de football.
Oui, c'était assez rigolo. Alors c'est le match que j'ai vu en direct, si je l'avais vu en replay. En sautant les temps morts, j'aurais passé beaucoup moins de temps que là devant ma télé en direct. Alors pourquoi est-ce que Rétafé a gagné? Parce que Rétafé, alors les stats qui sont sorties après font état de deux tirs en direct à la télé. Il n'y en avait qu'un seul, c'était un tir d'Untolar totalement écrasé qui passe 10 mètres à côté du but à la 86e. Toujours est-il qu'un ou deux, globalement, puisque alors ça
Alors,
compte peut-être un tir contré,
je te,
mais
ouais, je
en
te
tout
donne
cas.
l'autre tir. C'est à la 83e, un tir de Donny van de Beek, contré, à peu près à l'entrée de la surface, apparemment.
Ok, je vois, ouais, il le considère comme tir, mais de mémoire, le tir est contré, genre 1 mètre après le point de départ. Donc,
C'est un tir
tir.
contré, au stade.
Oui, non, mais je veux dire, c'est un tir, mais sur le coup, tu fais même pas attention que c'est un tir, en fait, ça pourrait presque être un centre contré, quoi. Mais donc, ça pour dire qu'en gros, c'est comme si l'Ajax n'avait pas tiré au but de tout le match, globalement, parce que même si tu prends en compte ces deux trucs-là, c'est la 83e et la 86e, et il n'y a aucune menace sur le but adverse. Donc rien que ça, il y a quand même une espèce de tour de force, même pas une espèce, il y a un tour de force de la part de Rétafé qui, pendant plus de 80 minutes, laisse l'Ajax avoir la balle, mais l'Ajax est incapable de faire le moindre tir, ce qui est quand même assez fou quand il pense. Je me souviens du drame que c'était quand Marseille n'avait pas forcément tiré pendant plus de mi-temps face à Paris ou pas fait un tir cadré, enfin je ne sais plus. Mais c'était un rapport de force qui était quand même plutôt défavorable à l'OM à l'époque. Là, Rétafé, sur le papier, c'était pas forcément supérieur, alors pas inférieur non plus, parce que Rétafé joue la qualif en Ligue des Champions dans son championnat, mais l'Ajax était quand même censé avoir quelques certitudes, même s'il y a eu le départ de quelques individualités, et l'Ajax aurait dû, selon comment tu envisages le truc, se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Alors ce qu'on voit finalement, on attendra Chelsea là cette semaine, mais c'est que ce groupe n'était pas si relevé que ça, parce que quand tu vois l'Ajax, alors même si les vérités de février sont pas celles de novembre, et peut-être que ces équipes-là ont baissé de niveau depuis, mais quand tu vois l'Ajax faire ça, quand tu vois Valence perdre aussi en Ligue des Champions de manière assez nette, tu te dis ah oui, c'était pas fou. Tu essayes de visualiser quel était le niveau du LOSC à cette période-là pour se faire taper par à peu près tout le monde. Mais en gros, c'était très simple pour revenir au match vite fait. C'est que Rétafé a mis un pressing très intense dans le camp de l'Ajax. Alors ce que beaucoup de fans de l'Ajax ont estimé comme étant de l'anti-football parce que le pressing était tellement intense qu'il y avait beaucoup de fautes. Mais ce n'était pas forcément de la faute tactique, alors il y en avait aussi, mais c'était simplement on met beaucoup, beaucoup d'intensité physique sur tout ce qu'on fait. Et le but, c'est... Alors si on peut récupérer la balle, c'est bien, mais c'est surtout de bloquer l'adversaire. et de faire en sorte que la possession adverse soit un petit peu stérile. Alors Retafe, t'es pas obligé de faire trois vols, des vols planés complets et trois tours sur soi-même dès qu'un mec de l'Ajax les frôlait un peu. Là-dessus, c'était quand même un petit peu, à la limite que tu mettes de l'intensité d'un côté du terrain, je veux bien. Le côté truqueur de l'autre n'était pas forcément nécessaire, mais ça c'est encore autre chose qui est décorrélé de l'aspect tactique. Mais Retafe a su faire un match à la Retafe, c'est-à-dire voilà, étouffer l'adversaire et faire en sorte que y ait quand même quelques phases de possession de temps en temps pour eux, pour essayer d'être dangereux. Et sinon, bah, en gros, tu récupères la balle et tu pars vite en transition et la plupart de tes passes se veulent être décisives. Et c'est pour ça que le taux de passe est si faible, ce taux de passe réussi. Parce que, en gros, tu récupères, et si tu vois le moindre espace, bah, tu tentes de lancer quelqu'un en profondeur, et ça passe pas. Mais si ça passe, c'est très dangereux. Donc, on sait que Retafe est le plus faible taux de passe réussi en Europe, mais c'est pour une bonne raison, et c'est pas simplement on balance au petit bonheur la chance en étant très loin du but adverse. C'est on récupère la balle assez haut, et on n'a pas envie de perdre de temps, parce qu'on sait qu'il y a quand même la majorité des buts dans le foot qui sont marqués en moins de 3-4 passes. Donc là-dessus, plan de jeu très bien exécuté. En plus, tu n'as pas forcément tous les meilleurs joueurs. Enfin, devant, Molina ne jouait pas. Andrel, qui est un peu dans la rotation avec Mata sur le deuxième poste d'attaquant, était sur le banc aussi. Donc, ce n'était même pas 100% le Retafe idéal, même si c'était quand même une équipe très compétitive. Ouais, pour finir, dire que Cucurella, qui est désormais bien installé au poste d'ailier gauche, est vraiment un joueur extrêmement fort. Alors il est dans un contexte qui lui plaît et il vient d'un club qui joue à peu près de la même façon. Donc du coup, tu savais qu'il avait de bonnes chances d'être intéressant dans ce système-là parce qu'il était à Eibar, qui est aussi l'autre équipe qui presse énormément en Espagne. Mais Cucurella, qui était pas mal loué par Ten Hag avant le match en disant ah bah Retafe a beaucoup de bons joueurs, faudra se méfier, notamment Cucurella. Bah effectivement, Cucurella, peut-être plutôt le latéral de formation qui là joue un cran plus haut, coche vraiment toutes les cases du joueur moderne à ce poste-là parce qu'il court beaucoup, il est très bon pressing, il arrive aussi à bloquer son couloir et puis il est capable de multiplier les centres. Donc pas révélation mais confirmation à ce niveau-là, alors que de l'autre côté, Ziyech est passé totalement à côté. Et à peu près tout raté. Autant Van de Beek était un peu pris dans la nasse et n'était pas beaucoup aidé pour ressortir les ballons sous pression, autant Ziyech a quand même eu des espaces parce que l'Ajax a parfois réussi à sortir du pressing et à avoir des occasions à jouer avec un peu d'espace de l'autre côté. Et il y avait tout le temps des mauvais choix. Donc c'est qu'un match, mais c'est un peu embêtant que Ziyech, juste après l'annonce de son transfert à Chelsea, sorte une performance comme ça où il est vraiment pas au niveau.
Est-ce que tu te rappelles de l'arbitre de la rencontre?
C'est un Français, c'est pas Benoît Bastien?
Non, c'était Rudy Buquet.
Rudy Buquet.
J'ai une petite question comme ça parce que je le voyais sur la fiche Ouscord. Et puisque tu parles de Ziyech, ça me fait une transition toute trouvée pour parler d'un autre match de Tottenham, un match contre Chelsea, disputé ce week-end, qui va permettre un peu de faire un point sur Chelsea qui s'apprête à jouer le Bayern. Victoire 2-1 après une période compliquée pour les Blues là, qui avaient perdu contre United notamment, avec un changement de système. Et d'ailleurs, ils se sont peut-être calqués, Christophe, sur le système de Leipzig, puisque Leipzig avait gagné en 3-4-2-1 contre Tottenham, et Chelsea a joué en 3-4-2-1 contre Tottenham. Rencontre dont j'ai vu la première période là en vitesse pour préparer cet épisode, et j'ai plutôt bien aimé ce que faisait Chelsea. L'autre info à noter, c'est que Giroud était titulaire dans le 11, qu'il a plutôt fait en plus un bon match, il est buteur, il a été intéressant de haut jeu. J'ai plutôt bien aimé le style de jeu de Chelsea avec notamment ce duo Jorginho-Kovacic, Mount et Barclay très mobile entre les lignes, pas mal de courses vers l'avant, Alonso qui apporte côté gauche. Est-ce que c'est une équipe qui peut, vu cette performance, aller embêter le Bayern?
Alors, oui et non. En fait, je ne sais pas à quel point, du coup, tu as vu le match aussi, donc tu pourras demander là-dessus, mais à quel point le plan très moyen de Tottenham sur la gestion de l'espace, t'as beaucoup trop d'espace entre les lignes. Notre ami Tanganga, le latéral, qui est pas un excellent joueur de foot, soyons clairs. Hein. En tout cas, sur ce que j'ai vu de lui jusqu'à présent, j'ai un peu...
Sur ce poste-là, encore moins. Parce que...
Ouais, à la limite centrale, oui. Mais là, sur ce poste-là, c'est assez compliqué. D'ailleurs, il est un peu impliqué sur le deuxième but. Donc, en fait, je sais pas à quel point Chelsea a vraiment récité une belle partition, ou à quel point n'importe qui aurait trouvé de l'espace entre les lignes face à cette équipe de Tottenham, parce qu'il faut dire aussi que Giroud a réussi, notamment sur son but, alors il ne le marque pas directement comme ça, parce que son tir est repoussé par Lloris, mais Giroud a réussi à être servi en profondeur, C'est-à-dire que Tottenham était plutôt dans l'attente et malgré tout laissait des espaces en profondeur.
Par
Et
la
en
spéciale de
plus.
Jorginho tout de même, qui est difficile à défendre parce qu'il reçoit un
Oui.
ballon du côté et directement en une touche, il arrive à trouver une trajectoire impossible où
La
tu te dis
spéciale Jorginho, ouais.
sur, ouais, tu te dis sur un ballon comme ça, c'est pas possible. Et il la faisait tout le temps à Naples. Donc c'est un peu aussi une faute de la part d'un milieu de Tottenham de se faire surprendre par ça,
C'est vrai que
même
sur
si
cette action-là, oui.
elle est quand même
Ça, oui.
difficile à défendre. Mais
Ça
tu
reste
l'as dit.
spécial de se faire prendre en profondeur par Giroud, mais c'est vrai que bon, sur celle-là en particulier, tu peux l'expliquer. En gros, c'était un problème de cadrage. Après, est-ce que c'était facile à faire? Et est-ce qu'il y a un autre joueur dans le monde qui fait cette passe-là? Je ne sais pas.
Le truc, c'est que cadrer un joueur qui regarde la ligne de touche, c'est compliqué. Mais après, sur les espaces donnés par Tottenham, t'as raison, parce que ça finit quand même à 17 tirs à 5 pour Chelsea. Et la première période est vraiment à sens unique. Il y a quelques situations pour Tottenham où ça contre-attaque et Lucas Moura arrive à dribbler un ou deux joueurs un peu miraculeusement. Il y a une transversale dans le dos d'Alonso qui lance Tanganga qui rate sa prise de balle et qui, du coup, surprend presque. Caballero et marque peut-être un des buts, aurait pu marquer un des buts les plus bizarres de l'année. Mais bon, on a déjà parlé de Tottenham. Qu'est-ce que ça veut dire pour Chelsea, par exemple, au milieu de terrain, où Kovacic et Jorginho, je trouve, on marche de mieux en mieux ensemble et fonctionnent bien. En fait, j'ai l'impression que Chelsea, à chaque fois, je prends du plaisir à les voir jouer. Et je me dis, je fais des points de temps en temps, je me dis, ah bah, ils doivent être bien au classement. Et en fait, ils sont pas si bien que ça au classement. Et là, ils vont jouer contre un Bayern qui, quand même, avec ses individualités, reste très fort. Est-ce que, par exemple, s'il y a un point fort qui pourrait permettre à Chelsea de gagner et un point faible qui pourrait vraiment les mettre dans le trou?
Alors là, comme ça, un point fort, je dirais peut-être, c'est en fait les projections que tu peux avoir dans l'axe que Chelsea a beaucoup de joueurs de mouvement et quelqu'un pour les lancer. C'est-à-dire que si Jorginho refait des passes comme ça, et sachant que le Bayern, alors le Bayern peut mettre un Goretzka par exemple en pointe haute, mais si le Bayern met Coutinho, je vois pas Coutinho forcément aller embêter directement, avoir ce réflexe d'aller sur Jorginho. Donc si Jorginho arrive dans l'axe à faire des passes pour des projections de Mount, voire pourquoi pas de Barkley, mais en tout cas ces joueurs box to box très à l'anglaise qu'il peut y avoir du côté de Chelsea, ça peut être menaçant. Plus que, alors bien sûr, tu peux cibler plein de choses. Tu peux dire Abraham face à la charnière du Bayern qui est en évolution constante. Est-ce qu'ils vont mettre Lucas Hernandez pour ce match-là? Est-ce que Boateng est encore un très bon joueur de foot? Voilà, enfin, tu peux tout cibler, mais pour moi, si vraiment il y a un point où tactiquement le système du Bayern n'est pas forcément habitué à défendre ce profil de joueur, c'est là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs en Bundesliga qui sont comme ça des six meneurs de jeu, on va dire. Capable de faire des passes en profondeur, et finalement il n'y a pas il y a des en fait il y a des box to box mais pas forcément du niveau de Mason Mount. Donc est-ce que dans l'axe le Bayern pourra gérer ça? Mais en fait l'inverse, c'est justement que sur les côtés, pour moi le Bayern a quand même un énorme avantage. Et Kingsley Coman face à Reece James, je sais pas. Et si t'arrives sur une défense qui n'est pas à 3 mais à 4, pour moi, ce sera tout aussi compliqué. La charnière, j'ai des doutes. Bon, là, ils étaient trois,
À noter que
Azpilicueta, ça va.
le Bayern a
Mais
joué à 3 aussi ce week-end.
pour la première fois, d'ailleurs,
Avec
première
Hernandez à la
fois.
back image. Est-ce que ça peut être en préparation à Chelsea ou pas du tout? Parce que c'était le même système que Chelsea.
Bah, déjà, une question de temporalité. Il me semble que le Bayern a joué avant. Si je dis pas de bêtises, il me
Alors
semble
ils
que le
ont
Bayern a
joué
joué
vendredi.
vendredi.
Joué vendredi en effet. Mais
Donc,
Chelsea
du
avait
coup.
déjà, je crois, joué à 3 sur un des matchs précédents. Il faudrait vérifier. Bon, enfin,
Pour
on
moi,
sait.
ça sent vraiment l'expérimentation. Genre, c'est bon de le faire au moins une fois avant de jouer Chelsea, mais pas, c'est parce qu'on joue comme ça qu'on va être comme ça face à Chelsea. S'il y a vraiment un adversaire contre qui tu peux faire ça, c'est pas Dortmund, enfin, c'est pas le seul, mais ça fait partie des équipes où normalement, à mi peu importe la manière dont tu abordes le match, tu dois gagner. Alors là, ça, le Bayern gagne dans les toutes dernières minutes. N'empêche que sur le papier, avant la rencontre, ils avaient quand même une certaine marge. Donc, à mon avis, ça fait partie du truc. Bon, on l'a testé à l'entraînement, il faut le faire en match. Ça peut donner des indications, mais j'y vois pas non plus le signal clair que le Bayern va jouer à 3. Effectivement, ça fait une option de plus et ça brouille encore un peu plus les cartes pour nous dans notre lecture d'avant-match. Mais globalement, sur les ailes, que ça soit Gnabry ou Coman, pour moi, sont capables de faire extrêmement mal, peu importe qui Chelsea aligne sur les côtés, que ça soit une défense donc à 3 ou à 5 avec Reece James et Marcus Alonso qui sont dans des postes qui leur sciaient pas mal parce que. Ils sont très bons contre-attaquants, ils sont sans doute meilleurs pour attaquer que pour défendre. Mais même à 4, peu importe qui Chelsea mettra sur les côtés, je vois d'ailleurs pas qui ça pourrait peut-être Azpilicueta, Emerson hein, sur les côtés si ça joue à 4. Dans tous les cas, je pense que ces duels-là face aux ailiers adverses, tu pars avec un assez net désavantage. Et en gros, faudra couper les mouvements à la source. Sinon, faudra être à deux sur Coman pour éviter qu'il passe.
Un petit point sur le joueur, enfin un des joueurs de ta saison, Mason Mount, qui là, donc tu en avais parlé, un 10 de pressing, un 10 de course. Il l'a encore fait. Qu'est-ce que tu as pensé de lui sur ce match où il aurait pu marquer à plusieurs reprises? Lui aussi aurait pu partir dans le dos de la défense. Ça aurait été plus logique que Giroud. Où il en est, ce petit Mason?
Ouais, parce que je trouve toujours intéressant. Alors peut-être pas au niveau sur la durée qu'on l'a vu afficher sur ses premières rencontres. Il a des hauts et des bas, et notamment sur les matchs que t'évoquais, ou enfin que t'évoquais pas, mais en gros le fait que Chelsea soit pas si bien classé, c'est lié au fait qu'il y ait quelques points perdus à droite à gauche sur des matchs qu'on voit pas forcément le samedi après-midi sur les matchs de 15h. Ou enfin de 16h, où ça va affronter, je sais pas, Aston Villa ou autre, et ça va repartir avec une défaite 1-0 ou 1-0-0, et on fera à peine attention, parce qu'il y aura eu des matchs un peu plus sexy à la même heure. Sur ces rencontres-là, il est pas forcément toujours régulier, donc ça explique aussi le fait que Chelsea ait moins de points que l'an dernier, et soit un peu moins régulier dans les performances. Mais il a un profil qui reste extrêmement intéressant dans ses frappes de balles, ce qui est quand même une grosse qualité à ce poste-là en Angleterre, et qui est bien l'héritage Lampard là-dessus. Donc rien que ça fait une menace qui peut pousser les défenses adverses à sortir et qui peut apporter quelques buts sympathiques. C'est un peu l'école Malinowski hein, du côté de l'Atalanta aussi. Dès qu'il arrive à 25 mètres, il y a beaucoup d'adversaires qui montent sur lui parce que tu sais qu'il représente une menace. Après, c'est un peu, comme je disais, c'est un peu comme Sensi du côté de l'Inter. Les performances de septembre-octobre étaient sans doute meilleures que celles ensuite. Mais j'aime quand même bien. Après, c'est toujours pareil, il dépend aussi de la pertinence et de la performance du niveau derrière lui. Et quand tu as un Kovacic, comme tu as un Kovacic là, ce samedi, c'est sûr que c'est tout de suite plus intéressant et qu'il a un peu plus de munitions à exploiter que si Chelsea subit beaucoup, beaucoup plus, parce que du coup, ses courses seraient surtout défensives et tu le verrais un peu moins à porter entre les lignes. Mais c'est intéressant si son jeu est complété par des joueurs qui sont capables de plus tenir la balle, parce que même s'il sait le faire, c'est pas un meneur et c'est pas sa meilleure qualité. Il est surtout là pour aller attaquer les espaces.
Mais d'ailleurs, vu l'équipe de derby de Lampard la saison dernière, est-ce que tu aurais imaginé un Lampard qui joue avec Kovacic et Jorginho au milieu de terrain? C'est assez couillu quand on connaît les clichés sur la première ligue.
Ouais, et c'est ça qui me fait m'interroger sur quel entraîneur est Lampard. Alors, peut-être que lui-même ne le sait pas encore. Peut-être qu'il est. Peut-être que finalement. En fait, je ne sais pas quelle est l'anomalie. Est-ce que
c'est quand même une équipe qui essaye de jouer. Il y a souvent des appuis soutien, du jeu en une touche. Alors, ça dépend des profils de Kovacic et Jorginho qui aiment beaucoup ça. C'est un peu comme quand il y avait Thiago Motta et Verratti. Forcément, les mecs ont une telle influence et une telle personnalité que ça va influer sur le jeu. Mais tu sens que c'est quand même encouragé par le coach, même si
ouais,
ça, ça te fait perdre.
Clairement, c'est pas si loin que ça de ce que faisait Sarri l'an dernier. Et ouais. Là-dessus, on va dire que les principes de Sarri étaient relativement bien maîtrisés, mais il n'y avait qu'un an de répétition derrière. Donc il n'est pas passé non plus comme Ancelotti ou Bayern, où tout était sur des roulettes et où il suffisait de ne pas défaire ce qui avait été fait précédemment. Là, tu pouvais, je pense, quand même revenir à un truc beaucoup plus anglais et plus comme ce que Lampard faisait à Derby. Ça aurait peut-être pris un tout petit peu plus de temps, mais c'était faisable parce que, hormis Jorginho, tous les autres joueurs auraient pu être pertinents et solubles dans des systèmes de jeu totalement différents. Et là, tu vois que Lampard choisit de bâtir et de construire sur cet héritage-là, sans forcément apporter énormément de choses. En fait, il apporte certains trucs, l'intégration notamment de nouveaux profils, le profil plus jeune qui est facilité.
Les jeunes anglais, ouais.
Les jeunes anglais, ouais, qui est facilité ou lié à l'interdiction de recruter hein. Jusqu'à cet hiver où forcément Chelsea était un peu obligé de faire avec ce qu'il y avait sur zone. Mais en fait, pour moi, tu peux presque plus le créditer sur des révélations individuelles, sur James qui est quand même a priori s'affirme comme plutôt un bon joueur de première ligue. Est-ce que ça deviendra un top qui sera aussi capable d'être titulaire dans un Chelsea redevenu très grand, je sais pas, mais c'est une performance, enfin il fait des performances intéressantes. On a parlé de Mason Mount, le fait que Tammy Abraham aussi soit, bon là il était pas apte pour jouer, il a joué, enfin il est rentré en cours de jeu, mais que Abraham aussi puisse s'affirmer. En fait, c'est presque plus des révélations
aussi
individuelles hein, de Tomori aussi effectivement, même si il a un petit peu sorti des radars depuis. Mais c'est presque plus ça que je mets à son crédit. Tactiquement, en fait, pour moi, il est à peu près dans la continuité de Sarri. C'est à noter. Après, c'est vrai que je reste quand même un peu mitigé sur les résultats parce que il fait comme Sarri, donc c'est plutôt intéressant à suivre, mais il a moins de points. Et j'ai l'impression que la presse anglaise lui en tient un peu moins rigueur parce que c'est Lampard, je peux le comprendre. Mais j'attends de voir la saison prochaine et peut-être avec des autres joueurs, quel est le vrai Lampard? Est-ce que c'est le Lampard de Derby? Est-ce que c'est ce Lampard-là? Ou est-ce que finalement c'est un entraîneur qui s'adapte totalement à son effectif? Et si tu le mettais à l'Atlético, il jouerait comme l'Atlético et qui finalement n'a pas de conviction et qui serait un peu comme un Allegri où il dit bah, je vais faire en fonction de mon effectif et moi je n'ai pas spécialement de conviction, c'est juste bah, si mes joueurs sont faits pour jouer comme ça, bah, je joue de la sorte. Là-dessus, il y a une vraie interrogation à suivre pour Lampard, mais au moins il est suffisamment bon pour rester en poste et pour que la question de son licenciement ne se pose pas. C'est un peu con, mais quand tu vois certains anciens grands joueurs qui ont pu avoir des débuts de carrière difficiles, ou enfin, je pense aussi à tous les anciens joueurs qui sont passés sur le banc de Milan, etc. Enfin, tu te rends compte que c'est pas ton aura ne suffit pas forcément à durer sur un poste d'entraîneur. Donc là-dessus, il est suffisamment bon pour se donner le temps de construire sur la durée et qu'on puisse juger dans le futur dans quelle direction véritablement il veut aller.
Ouais, et puis la qualité du jeu lui donne du temps aussi, parce que si d'autres entraîneurs avaient les mêmes difficultés, mais en faisant pas des bons matchs toutes les 2-3 semaines, où tu te dis là ça joue, peut-être que ce serait plus difficile de continuer. Là, enfin, t'imagines tout à fait Chelsea continuer avec lui la saison prochaine, avec la progression des jeunes, avec l'arrivée de Ziyech, peut-être d'autres joueurs. Et pourquoi pas continuer à progresser. Parlons d'un club et d'un coach qui ont des convictions, à nouveau en tout cas. C'est le Barça avec Quique Setién qui a remporté son match contre Eibar 5-0 ce week-end avec un quadruplé de Messi et un but d'Arthur en toute fin de rencontre. J'ai vu la première période, tu as vu tout le match. Je crois qu'il fallait surtout voir la première période où le Barça menait 3-0 déjà après 45 minutes alors que mon voisin ponce chez lui. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je vais te laisser en parler du coup, je reviendrai après un peu dessus. Mais qu'est-ce qu'annonce ce match à quelques heures du match contre Napoli en Ligue des Champions?
J'espère que ton voisin Ezequiel Pons ne va pas continuer très longtemps, sinon ça va être un petit peu embêtant. Alors qu'est-ce que je retiens de ce match-là? Bah, en fait, je pense qu'on va avoir à peu près le même temps de parole parce que la deuxième période n'a pas grand-chose à en retenir, parce que le Barça globalement a arrêté de jouer, hormis l'entrée de Braithwaite en fin de match sur le dernier quart d'heure qui apporte des choses à la fois. Enfin, je pense que c'est aussi lié à l'envie de Braithwaite de jouer. Je ne vais pas dire que Umtiti et De Jong, qui étaient rentrés avant lui, n'avaient pas envie, mais enfin, eux avaient beaucoup moins de choses à démontrer alors que Braithwaite est arrivé à 100% au milieu d'une équipe qui jouait à 50% et d'un adversaire qui était à 70%. Donc, du coup, tu avais quand même un écart qui lui permettait, je pense, de. Alors, peut-être pas de combler les lacunes techniques ou tactiques. Voilà, ça serait. Je ne veux pas être dur avec lui, qui vit son rêve et qui n'est pas non plus un mauvais joueur de foot et qui peut, pourquoi pas, s'intégrer dans cette équipe sur le petit rôle qu'on lui demandera. Mais c'est vrai qu'il était d'autant plus performant qu'il était le seul à vraiment en vouloir sur cette fin de match. Mais pour revenir sur la première période, dire que Barcelone marque beaucoup de buts, mais aurait pu en marquer plus. Eibar était catastrophique, faut le dire. Je comprends l'idée de presser, mais le pressing n'était pas forcément bien fait. Et surtout, t'as l'impression qu'en fait cette équipe avait tellement l'habitude de presser qu'elle était incapable de faire une défense placée à peu près correcte. Alors est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que Eibar presse parce qu'ils savent pas défendre normalement, enfin normalement, en défendre bas? Ou est-ce que c'est le fait de presser qui leur a fait oublier quels étaient les réflexes de base? Mais c'était quand même assez compliqué. Donc là-dessus, le score enfle parce que l'adversaire n'est pas bon. Et là-dessus, c'est difficile de transposer totalement ce qui est fait par Barcelone face à un adversaire comme Naples qui sera bien meilleur parce que les espaces qui existaient là n'existeront pas par la suite. Mais j'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu sur certaines choses. Pourtant, enfin, en fait, ce qui est drôle, c'est que collectivement, je trouve ça intéressant sur la capacité à faire des décalages ou autres. Et là, je regardais le 11 aligné et je me dis, ouais, Rakitic, pas forcément convaincu sur ce match-là. Arthur, ouais, pas mal. Bon, la défense pas trop testée. Junior Firpo, bon, a pas été si sollicité que ça sur le plan offensif. Vidal, bon, c'était le voir comme ça évoluer à ailier gauche. Plutôt à gauche, mais en tout cas sur une position offensive dans le 4-3-3, c'était pas parfait, mais ça pouvait être intéressant pour récupérer les ballons hauts.
Et puis il a
Griezmann,
porté des courses aussi.
ouais, il a apporté des courses.
Ça faisait du bon
En
autour
fait,
de Messi.
En fait, c'est ça, on sait ce qu'il va apporter, et là, tu l'as porté sur une zone différente en le mettant plus haut, même si voilà, sa technique est pas parfaite dans le dernier temps de terrain adverse. Griezmann m'a beaucoup énervé parce qu'il continue à ne pas forcément comprendre quand est-ce qu'il doit prendre la profondeur et quand est-ce qu'il doit jouer en remise, et son occupation de l'espace n'est pas optimale par rapport à Messi. Mais n'empêche que le Barça, collectivement, a quand même été très, très intéressant, et du coup, je pense qu'en fait, enfin, je me suis frustré des occasions ou des situations gaspillées par Griezmann, mais si je me frustre, c'est parce qu'il y avait beaucoup de situations à gaspiller. Donc, c'est aussi le signe que Barcelone était quand même en position de force quand même assez nette. Et c'est en partie lié à Messi, forcément, mais pas que. C'est aussi le fait que les principes de Quique Setién commencent à infuser et que tu arrives à étouffer un adversaire et à. Alors, c'est pas encore du Guardiola, hein, mais tu arrives à t'installer à opposer un rapport de force qui fait que, à moins vraiment d'être dans un jour très pénible à la finition, tu gagnes ce genre de match sans trop de problèmes.
Là où je les ai trouvés très bons, alors que Eibar avait des phases en tout début de match où tu te disais ah, ils peuvent les mettre en difficulté là-dessus, c'est qu'ils sont tellement en densité, tellement denses dans l'axe avec des répétitions d'appui remise, d'appui soutien, que le pressing à la perte avec les Vidal, les Busquets, les Griezmann, Arthur et Rakitic a été vraiment bon. Là, j'ai souvenir de beaucoup de phases où j'ai regardé la première période où le ballon est perdu dans un demi-espace, par exemple le demi-espace gauche de Arthur, de Vidal. Et il va y avoir très vite 2-3 joueurs qui vont chasser, Busquets qui va défendre en avançant, les centraux qui vont soit avancer, soit voir s'il y a une course, anticiper un peu la profondeur et tranquillement poser le jeu. Et j'ai finalement le chiffre que je vois à la fin de 12 tirs pour Eibar me surprend parce que j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu tant que ça. Et en fait, je me rends compte là en regardant les stats que c'était beaucoup en deuxième période. Ça doit être dans un temps faible du Barça parce qu'ils prennent, ils encaissent 4 tirs en 5 minutes. J'imagine qu'il y a un petit moment où ils se sont relâchés quand ils menaient 4-0. Mais sur la première période, tu vois, ils concèdent 4 tirs, ce qui contre le pressing habituel de Eibar est plutôt positif. Et là aussi, tu as vite étouffé le pressing. Ter Stegen a été très bon dans le jeu au pied. Busquets, je trouve, monte en puissance. Et là, vraiment, a tellement de solutions proches de lui. Un Messi pas éloigné, un Griezmann qui peut jouer en soutien, un Arthur qui est aussi toujours proche de lui dans un rôle qui ressemble de plus en plus à Xavi, est intéressant. Il y a vraiment cette force qui revient au cœur du jeu, là où on voyait plus vraiment le Barça dominer et être souverain, ce qui était le Barça de Guardiola, le Barça de Villanova. C'est plutôt une bonne chose quand tu dis qu'en plus tu peux faire rentrer dans ces zones-là De Jong et d'autres joueurs comme Fati devant, par contre, pour apporter des courses et un peu plus de profondeur, plus que Vidal encore. Ça peut être intéressant. Après, je me dis qu'en Ligue des Champions, quand il va tomber sur énormément d'intensité, est-ce qu'ils vont avoir cette même capacité à ressortir le ballon? Ça sera pas contre Naples, je pense, ce problème-là. Mais si derrière tu tombes sur City, tu tombes sur Liverpool, tu tombes sur un Atlético régénéré, est-ce que tu vas avoir la même capacité à ressortir avec certains joueurs qui techniquement sont en difficulté? On peut parler du match de Semedo, de Rakitic, de Firpo sur certaines séquences. Il y a quand même 2-3 joueurs où quand tu les touches, le pressing adverse est beaucoup plus simple soudainement.
Qu'est-ce que tu as pensé de la première ligne? Je sais pas si tu avais vu récemment le Barça. Là, c'était une nouvelle articulation avec Vidal titulaire, alors que généralement c'est plutôt Ansu Fati. À la fois, le fait de mettre Vidal dans ce rôle-là, qui forcément va t'apporter moins de choses dans la tenue du ballon, mais peut t'apporter cette profondeur et peut t'apporter ce volume de course pour presser à la perte et pas trop exposer la ligne derrière. Et deuxièmement, on va dire les relations entre Messi et Griezmann. T'as peut-être un œil un peu plus frais que moi, parce qu'en plus t'avais pris un peu de vacances, un peu de recul. Donc du coup, tu peux voir en gros à l'instant T sans avoir les préjugés des semaines précédentes. Est-ce que tu trouves qu'il y a des progressions dans la manière dont Griezmann et Messi s'entendent, sachant que là on est quand même le 24 février, le jour d'enregistrement. La saison est bien avancée et je vois pas tellement d'évolution dans la compréhension des deux.
Après, ils sont un peu repartis à zéro quand Setién est arrivé.
Oui, non, mais bien sûr, le contexte s'entend totalement. Disons, j'ai l'impression que le Barça dépend moins de la relation entre ces deux joueurs-là parce qu'il est beaucoup plus capable de se mettre en situation dangereuse sans ça. Mais est-ce que pour toi ça peut se poser souci et quelle est-ce que tu vois comme piste d'amélioration pour que les deux ne se marchent pas trop sur les pieds et qu'ils puissent s'entendre au-delà de Messi qui veut absolument faire cadeau du but à Griezmann et qui finalement le met lui-même parce que Griezmann rate son coup.
Ce que j'ai trouvé à la fois intéressant et encore qu'il a besoin d'être peaufiné, c'est le fait que les deux sont vraiment à l'intérieur, beaucoup. Que Griezmann, du coup, est dans la zone de Messi, là où Messi vient demander le ballon et se proposer entre les lignes. Et du coup, il est plus forcément en capacité d'exprimer le rôle qu'il joue en équipe de France, ce rôle associatif qui va recevoir le ballon, jouer avec les autres, s'associer, lancer quelqu'un dans la profondeur. Lui, il est plus dans le rôle de vraiment celui qui doit étirer la défense adverse. Ça réduit un peu son champ d'expression et ça réduit ce qu'il pourrait être. C'est peut-être aussi pour ça que parfois il te frustre, parce qu'il a quand même cette volonté d'aller jouer avec les autres, de participer. Et quand Messi vient dans cette zone-là, c'est toi l'oiseau, quand Messi vient dans cette zone-là, c'est plus dur pour lui d'exister. Donc je me demande comment ça peut être articulé pour que les deux aient vraiment de l'espace à l'intérieur. Ça peut être que Fati va jouer beaucoup plus couloir quand il va prendre la place de Vidal, et imaginer un joueur qui à droite va aussi pouvoir attirer cette défense. Mais là, par exemple, tu vois, quand tu vois le 11 à gauche, Firpo n'a pas extrêmement étiré l'équipe adverse, alors qu'il aurait pu jouer plus haut. À droite, il n'y avait pas forcément de joueur qui étirait l'équipe adverse parce que Semedo n'a pas été une menace. Donc avec un Fati couloir gauche et un autre joueur couloir droit, tu pourrais jouer limite dans un 3-3-4 ou quelque chose comme ça, que faisait un peu Guardiola à l'époque, où tu vas avoir Messi, Griezmann dans l'axe, un joueur à gauche, un joueur à droite, et au milieu de terrain, Busquets et deux milieux. Busquets, Arthur De Jong, Busquets, Arthur Rakitic, Busquets, De Jong, Rakitic, peu importe. Plus trois centraux derrière ou un latéral un peu plus axial pour vraiment donner l'opportunité à Griezmann et Messi d'avoir de l'espace tous les deux. Là, j'ai trouvé que les deux n'avaient pas forcément assez d'espace pour exister en même temps.
Ouais, je suis assez d'accord. Après, je sais pas quelle projection tu vois face au match contre Naples, mais pour moi, il y a quand même certaines certitudes collectives qui se dégagent, qui font que ton plafond, ça peut être un tout petit peu moins haut que si tu avais eu le temps d'installer le 3-4-3 et vraiment tous les principes de Setién. Mais il a quand même réussi à installer une base qui font que pour moi, il y a quand même une marge face à une équipe comme Naples.
Non, mais bien sûr, je pense que. Bon, puis quand tu vois la performance de Messi, ta marge, elle est là. En Ligue des
Oui.
Champions, t'as pas vraiment de mec qui puisse lui répondre. Là, Ibar était parfois à 2-3 sur lui, et ça changeait pas grand-chose à l'histoire. Donc, je pense. Enfin, contre Naples, ça posera pas problème. Contre peut-être 2-3 équipes encore en lice, ça posera problème. Mais c'est pas forcément en plus un plateau cette année super relevé, je pense pas. En tout cas, chez les plus grosses écuries. Je pense pas que collectivement, pour le coup, les Real, City. Juve, qui pourrait d'avoir Liverpool, sont actuellement les équipes les plus fortes sur le plan collectif. On en a parlé de Leipzig, Atalanta. C'est peut-être plus ces clubs-là qui peuvent t'embêter sur vraiment la capacité à te dépasser sur toute l'équipe et sur l'expression collective. Avant de passer au pari, on va d'abord s'arrêter sur l'expérience de Florent avec Djibouti, puisque après avoir fait la Coupe d'Afrique de l'Est, il y a quelques mois de ça là, Florent était jusqu'à. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il sera rentré à la publication de ce podcast, Christophe, je ne pense pas. Florent
Bah, on enregistre le 24, il rentre le 25. Ça dépend si on arrive à monter aujourd'hui. Je pense qu'il sera sur le chemin, à mon avis.
Voilà. Florent sera sur le chemin entre l'Arabie Saoudite et la France et Bordeaux, puisqu'il était à la. Alors, comment on pourrait appeler cette compétition? La Coupe, coupe Arabe
ça.
U20?
Oui, c'est ça, il me semble que c'est ça, mais il expliquera ça. Ouais, Arab Cup. Ouais. Non.
Et donc, il nous a envoyé quelques audios depuis son hôtel pour nous expliquer son expérience, pour nous donner son rôle, son vécu, ce qui s'est passé là-bas, ce que ça a donné pour les U20 de Djibouti, ce qui continue de travailler avec Julien Met, le sélectionneur de Djibouti. Voilà, on vous laisse écouter ça et puis on revient juste après pour vous parler de nos pronostics, toujours avisés comme d'habitude.
Salut à tous. Eh bien, j'étais parti en Arabie Saoudite pour une dizaine de jours, pour accompagner la sélection U20 de Djibouti à l'Arab Cup, qui réunissait des équipes du monde arabe, du Maghreb jusqu'au Moyen-Orient. Donc il y avait 4 poules de 4, 16 équipes, et nous étions avec Djibouti dans la poule du Maroc, de Madagascar, qui a remplacé au dernier moment le Qatar, et de Bahreïn. L'objectif de Djibouti sur le tournoi, alors c'était pas de passer le premier tour, d'atteindre un certain niveau de compétition, c'était surtout d'avoir 3 matchs à jouer avec cette génération U20 en lui offrant les conditions de travail des A, c'est-à-dire avec la présence de Julien, avec ma présence, avec un encadrement et des conditions de travail dignes des A, c'est-à-dire que Julien les a eues pendant 5 semaines à l'entraînement avant le tournoi. Et l'idée, c'était de voir comment les joueurs de cette génération-là allaient réagir, sachant que leurs précédentes sorties n'avaient pas forcément convaincu, voire pas convaincu du tout. Mais il y avait la grande question, c'était de savoir est-ce que c'était le problème de la génération, des joueurs, ou est-ce que c'était le problème du sélectionneur en place, U20, avec qui ça s'était assez mal passé avec Julien au niveau relationnel. La question, c'était de savoir, on les met dans des conditions dans les mêmes conditions que les A, et est-ce qu'ils vont avoir des résultats, ou est-ce qu'en tout cas, sur le plan du jeu, sur le plan du respect des consignes, on va être avec des joueurs assez matures et peut-être prêts pour rejoindre l'équipe première par la suite. Alors les matchs, du coup, dans l'ordre, on a commencé par Madagascar avec une défaite 4-3. C'était parti de façon merveilleuse puisqu'on mène 2-0 au bout de 15 minutes. Et ensuite, comme Julien leur a dit après le match, on joue comme on s'entraîne. Et comme Julien les avait eus pendant 5 semaines à l'entraînement et que très souvent les entraînements démarraient par 10-15 minutes très intéressantes pour ensuite partir un peu dans tous les sens avec des joueurs qui font un peu n'importe quoi, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a eu un très bon premier quart d'heure et ensuite on a pris 4 buts sur le reste de la mi-temps pour être mené 4-2 à la pause et des buts d'une bêtise assez incroyable pour la plupart, avec des consignes non respectées. Donc voilà, ça ramène au manque de maturité des joueurs qui ont été punis en plus par un adversaire qui avait sans doute la meilleure individualité de notre groupe. C'est l'attaquant de Madagascar qui s'appelle Arnaud, qui met un triplé sur ce match-là et qui finit la phase de groupe avec 5 buts. Donc voilà, il y a eu ce problème-là face à Madagascar. Deuxième mi-temps, on revient à 4-3, mais... on manque ensuite, on va dire, de sérénité et de calme pour vraiment être dangereux dans la fin du match. Ensuite, face au Maroc, c'est une catastrophe. Il y a rien à sauver. Là, sur le Maroc, à la fois, on a noté un manque de respect des consignes données et surtout un manque d'intelligence situationnelle. Parce que lors du premier match, on avait repéré que le Maroc était une équipe qui attendait le plus souvent, qui sortait pas forcément très haut. Face au Bahreïn, ils ont opté pour un 4-1-4-1 très compact au milieu, mais il laissait sortir les joueurs du Bahreïn, ce qui fait que tu pouvais, avec tes défenseurs, sans doute porter la balle, avancer jusqu'aux 40 mètres. Le problème, donc on leur a dit ça en préparation de match, le problème c'est que quand tu arrives au match et que si tu te rends compte au bout de 10 minutes que les Marocains, en fait, ils viennent te chercher parce qu'ils ont notamment repéré, évidemment, contre Madagascar qu'on avait du mal à sortir le ballon, tu t'adaptes et puis tu arrêtes de relancer court. Sauf qu'en fait, ils ont continué à relancer court jusqu'à la fin, jusqu'au bout, ce qui nous a amené à des situations assez ridicules et des buts encaissés tout aussi ridicules. En termes de cadeaux, on a dû offrir 3 ou 4 buts. Je pense que le vrai écart avec une équipe qui aurait respecté les consignes aurait été moins inférieur à ce 6-0. Mais bon, ça fait 6-0. Les joueurs ont vu ça à la vidéo, ils en ont mangé pas mal. Et du coup, face à Bahreïn, par contre, on avait à nouveau mis en place un plan de jeu qui était calqué pour essayer d'empêcher l'adversaire de développer ce qu'il avait montré jusque-là. Et face à Bahreïn, ça s'est mieux passé, puisque c'est une équipe qui avait l'habitude de jouer vraiment la profondeur. On ressort court avec nos défenseurs. Nos défenseurs avancent jusqu'à 40 mètres de leur but. Et ensuite, ils envoient des longs ballons dans le dos des latéraux adverses. Donc ça, c'était le plan de jeu de Bahreïn. Donc nous, on a mis en place un système en 3-4-3 avec un numéro 10 et deux attaquants devant, 3-4-1-2 si vous préférez. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé, c'est-à-dire que nos trois joueurs devant ont bien bloqué leur sortie de balle. On les a empêchés de jouer comme ils en avaient l'habitude. Malheureusement, le premier but, on le donne encore une fois. On perd un ballon dans notre moitié de terrain alors que on doit le sortir. Et parce qu'on prend ce premier but-là, on plonge dans les 5-10 minutes qui suivent et on prend un deuxième but à ce moment-là. Donc à la mi-temps, il y a 2-0. Mais en termes de respect du plan, respect des consignes, on passe de 30-40% sur les premiers matchs à 80% sur le dernier. Donc ça, c'est un point positif. Maintenant, il y a ce manque aussi de maîtrise des émotions. Après, on est avec des U20, donc c'est pas forcément anormal. Mais qui fait que, après le premier but, on a plongé, on a pris le deuxième. Et en deuxième mi-temps, après un but marqué, où là, normalement, on est censé prendre un ascendant psychologique, mais après le but marqué, il y a l'euphorie, il y a aussi des émotions qui sont pas contrôlées, qui fait que derrière, on profite pas des minutes qui suivent ce but marqué pour continuer à mettre la pression. Et on se perd un petit peu, on en oublie les consignes et finalement, on n'arrive pas à avoir d'opportunités pour revenir à deux partout. Sur le plan des problèmes, manque de maîtrise des émotions, manque d'intelligence situationnelle et au départ, gros manque de maturité par rapport aux consignes et aux plans de jeu qui avaient été donnés. Donc il y a une progression entre les trois matchs, mais il y a quand même énormément d'écart entre ce que les U20 ont fait et ce que fait l'équipe première aujourd'hui. Moi, mon travail, c'était assez simple, c'était superviser les adversaires. Lors du premier match, enfin de la première journée, vu que nous on jouait à 18h, je suis allé au stade un peu plus tôt pour voir le Maroc face au Bahreïn. Et ensuite, lors du deuxième match, je suis resté plus tard pour voir Bahreïn face à Madagascar. Voilà, donc l'idée c'était ensuite de séquencer ces matchs-là, de présenter à Julien à la fois mes notes et quelques vidéos sur ces rencontres-là. Et à côté de ça, je me chargeais aussi du séquençage de nos propres matchs, où là, c'était découpage de chaque rencontre avec des annotations pour signaler les bonnes ou les mauvaises actions de certains joueurs et ensuite signaler quel type d'action c'était. Est-ce que c'était une sortie de balle de chez nous, de l'adversaire? Est-ce que c'était une construction de nous, de l'adversaire, finition, coup de pied arrêté, etc., etc. Bref, le taf qui est fait automatiquement sur des plateformes comme Wisecout, là, il fallait le faire à la main. L'idée, c'était aussi de faire du suivi individuel. Alors, il y a eu deux choses différentes. Après le match contre Madagascar, Julien m'avait demandé de faire du suivi et de prendre deux joueurs en individuel pour bosser sur de la vidéo. C'était le gardien de but et un des défenseurs qui était parti un peu dans tous les sens en termes de maîtrise des émotions, justement. J'ai aussi proposé à Julien de dire aux joueurs que s'ils voulaient eux-mêmes revoir leur prestation, revoir leur match, faire du correctif individuel, ils pouvaient frapper à ma porte. L'idée était de repérer les joueurs qui seraient curieux d'utiliser ce nouvel outil, qui est la vidéo, nouvel outil pour eux évidemment, puisqu'ils n'ont pas ça là-bas. Donc l'idée aussi, c'était de repérer quels joueurs allaient faire la démarche de venir voir ce que je leur proposais, de découvrir une nouvelle manière de s'améliorer. Parce que l'idée aussi, c'était de repérer les plus curieux, parce que les plus curieux, ça amène souvent aux plus intelligents et aux plus motivés. Donc voilà, et on était aussi dans cette optique de détection des profils qui seraient intéressants de suivre par la suite. Donc cette proposition de suivi individuel, ça permettait aussi de repérer ces gens-là. Alors qu'est-ce que ça change de bosser avec des U20? Beaucoup de choses. Déjà sur le plan de la maturité, j'en parlais tout à l'heure, mais en termes de maîtrise des émotions, de concentration, d'intelligence situationnelle, etc. On est sur des U20, certes, sur le plan de l'âge, et encore pas tous. On avait 4 U17 aussi dans l'équipe, qui ont sans doute d'ailleurs été les plus performants pour la plupart. Donc, qu'est-ce que ça change? C'est au-delà du fait que ce soit des U20 aussi, c'est des joueurs qui n'ont pas fait de formation, mais pas du tout, qui jouent aussi très peu en club et qui ne connaissent absolument pas la compétition de haut niveau. Donc, c'est comme si tu bossais mentalement avec des mecs qui arrivent en centre de formation en France, quoi. Tu pars vraiment de zéro. Donc, déjà, ça change pas mal de choses. C'est-à-dire que tu dois quand même dire à un défenseur central, c'était un DU17, lui, pour le coup, mais tu dois quand même lui dire que quand il sort au duel pour aller gagner un ballon au milieu de terrain et que la balle est dégagée 20-30 mètres devant, tu dois lui dire, tu dois pas faire la course de pressing pour aller 30 mètres plus haut pour aller presser. Parce que sinon, derrière, il y a un trou. Voilà, tout ça, tu dois le dire. Il y a aussi l'autre difficulté, c'est que des U20, ça parle très peu. On n'avait aucun leader naturel dans l'équipe pour parler aux autres, et notamment corriger quelqu'un quand tu en as un qui va faire une erreur parce qu'il lit mal une situation. Prenons l'exemple simple du gardien de but. Le gardien de but, il va la donner à sa gauche, il va faire une relance courte vers son défenseur central gauche, qui est droitier. Donc déjà, il y a un problème, sachant qu'en plus, on n'est pas forcément sur le défenseur le plus talentueux du monde, balle au pied. Donc, il va le faire une fois. Ah mince, les Marocains pressent, ils vont récupérer la balle. Deuxième 6 mètres, il va la remettre au même endroit, à ce joueur-là. Ça marche pas. Troisième fois, il va la remettre au même endroit. Ah merde, ça marche pas. Et là, il y a un vrai problème, c'est que, un, t'as le gardien qui ne voit pas que ça fonctionne pas, en fait, ce qu'il fait depuis 2-3 séquences. Et d'un autre côté, t'as aucun joueur qui va dire au gardien, t'es pas foutu de le voir, mais ça marche pas, donc fais autre chose. Donc voilà, il y a les deux choses, c'est-à-dire manque de communication, manque de leadership et manque d'intelligence situationnelle, voilà, qui pourrait être corrigé par plus de communication, mais ça non plus, tu ne l'avais pas. Alors sur le niveau général de la compétition, j'ai trouvé ça très faible, même si, évidemment, je peux parler que de mon groupe, je trouvais ça très faible parce qu'il y a eu beaucoup de cadeaux offerts, techniquement, c'était assez faible. Physiquement aussi, à part un joueur dont j'ai évoqué le cas tout à l'heure, c'est l'attaquant de Madagascar qui s'appelle Arnaud, qui donc a terminé avec 5-6 buts sur la phase de groupe et qui a failli, a priori, l'hiver dernier, signer à Grenoble pour d'abord la réserve, mais j'imagine qu'ils espèrent ensuite le faire monter. C'est un joueur né en 2001 et qui était de très, très loin au-dessus. Je pense que dans ce groupe-là, il y avait franchement lui et trois classes en dessous, tu avais le deuxième meilleur joueur. Il était vraiment, vraiment, vraiment au-dessus. Il avait beaucoup de choses pour aller loin. D'ailleurs, a priori, il a déjà une sélection. Il y a déjà des sélections avec les A de Madagascar. Ça pose quand même le niveau, sachant que tous les autres joueurs sont assez loin des A. Même chez nous, il y en a qui sont assez loin des A. Et ensuite, c'était quand même, sur le plan du jeu, c'était assez faible parce que il y avait un gros manque de vitesse en général, gros manque de puissance et surtout énormément d'erreurs. Quand tu vois les scores, bon, nous on en prend 6 contre le Maroc, mais le Maroc quand même à 11 contre 10 contre Bahreïn, ils en prennent 2 sur coup de pied arrêté. Madagascar-Bahreïn, ça fait 5-4 avec beaucoup de cadeaux, beaucoup d'erreurs, notamment des défenses. Donc voilà, c'était assez faible. Et Julien, on en parlait quand on faisait le bilan, mais si tu amènes n'importe quel... bonne équipe U19 de France, Nantes, Rennes, Bordeaux, enfin des équipes qui tournent cette saison, je ne sais pas lesquelles tournent exactement, ou Lyon, tu les amènes là, ces équipes-là, elles les explosent, quoi. Franchement, il n'y a pas de discussion possible. Et le dernier exemple, c'était aussi les gardiens. Il n'y avait pas un seul gardien sur tout le tournoi qui était capable, enfin sur tout le tournoi, sur notre groupe, de faire un gros dégagement dans le camp adverse, quoi. Donc forcément, ça complique beaucoup de choses. Si t'arrives pas à repartir court et à construire de chez toi. Donc voilà, niveau quand même assez faible, on va pas se le cacher. Et le fait qu'on termine à dernière place, ça en dit long sur la performance globale de l'équipe. Ah ben, qu'est-ce que ça dit du niveau de la formation de Djibouti? Je pense que c'est assez clair. On est sur un niveau très, 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 très faible. Et le problème, c'est que pour développer ce niveau-là, développer la formation, il faudrait que la fédération et les clubs travaillent ensemble. Et or, c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et après, de toute façon, il y a même un gros écart aussi entre la première division djiboutienne et le niveau international, quoi. Il y a un mec qui va mettre 15-20 buts dans le championnat djiboutien, il va avoir du mal à en mettre un seul sur la scène internationale. Donc il y a un écart de niveau qui est énorme et qui est encore plus grand avec des jeunes qui ne jouent même pas dans leur club respectif. C'est-à-dire que là, la majorité des U20 ne jouent même pas en club. Et je parle pas des U17, évidemment. Donc à ce niveau-là, il y a un vrai souci. C'est-à-dire que les clubs préfèrent aller chercher des joueurs étrangers très moyens, puisqu'il n'y a pas forcément d'excellents joueurs qui vont dans le championnat djiboutien, évidemment, faute de moyens. Donc ils préfèrent aller chercher des joueurs très moyens plutôt que de développer des jeunes. Donc déjà, c'est compliqué. Et ensuite, en termes d'entraîneur, il y a aussi un vrai souci parce que juste avant de partir, le DTN, donc Yann et Julien, ont voulu faire une réunion avec tous les entraîneurs des équipes de première division de Djibouti. Donc ils ont voulu faire une réunion pour proposer, mettre en place des principes similaires à tout le monde de manière à ce qu'ensuite les joueurs soient prêts quand ils arrivent avec les A, avec Julien, il soit prêt à travailler de la manière dont lui voudrait travailler, c'est-à-dire une manière plus à l'européenne. Le souci, c'est que lors de cette réunion, il y a que 2 ou 3 coachs qui sont venus. Déjà là aussi, il y a un vrai souci. Donc c'est un travail, c'est un chantier assez monstrueux. Et ça passera peut-être, les progrès passeront peut-être par la création d'une académie qui aura des équipes qui seront ensuite intégrées dans le championnat. Comme ça, Julien gérerait une équipe de l'académie et ensuite cette équipe jouerait le championnat et sans doute le gagnerait au bout de quelques temps, vu le niveau global là-bas. La suite pour moi, je ne sais pas, tout simplement. Je pense évidemment que ça va continuer et que je serai amené à faire d'autres missions pour Djibouti, mais je ne sais pas laquelle sera la prochaine. Ça sera peut-être au mois d'août pour un stage au Qatar avec les A qu'ils avaient déjà fait l'an dernier parce que Djibouti a une convention avec la fédération qatari qui leur permet d'aller faire des stages là-bas en profitant des énormes conditions de travail avec Aspire, etc., le centre d'entraînement de là-bas. Donc ça sera peut-être ça au mois d'août. Ça sera peut-être plus tôt parce qu'il y aura des échéances lors des trêves FIFA. Il y en a en mars et au mois de juin. Maintenant, pour l'instant, il n'y en a aucune qui est fixée. Donc, je ne me projette pas trop et je verrai en fonction de ce qu'il propose. Voilà.
Merci Florent. Et nous voilà donc pour les paris, les pronostics avec notre partenaire PMU.fr.
PMU vous présente la séquence prono.
Les paris, Christophe, on continue de briller dans cette séquence paris. Est-ce que tu as passé un pari la dernière fois? Je ne sais même pas. J'en ai réussi aucun des deux.
Je ne crois pas avoir réussi de pari, malheureusement. je t'avoue que j'ai même pas osé vérifier. En fait, j'ai hésité tellement entre plusieurs paris que je ne sais même plus lesquels j'ai annoncés dans le podcast. Mais le fait est que tous ceux que j'avais en tête ne sont pas passés, je crois. Donc du coup, peu importe ce que j'ai annoncé, je pense que c'est un échec.
Même ceux que tu n'as pas fait ne seraient pas passés, c'est quand même terrible.
Oui, c'est ça. Mais en gros, en fait, il y avait beaucoup de bonnes idées, je crois, mais ça n'a pas fonctionné. De mémoire, je crois que j'avais dû avoir victoire de Monaco en prenant un but, et il y a un partout, et Slimani tire à côté du but vide en fin de match. Bon, après, tu me diras, Tavares se rate un face-à-face dans la foulée. Mais voilà, ça fait partie des choses où tu te dis, bon, si tu cadres Islam, ça passe, et c'était plutôt une belle cote. Et je crois que j'avais mis victoire de l'Espagnol à l'extérieur, et l'Espagnol a pris un carton rouge au bout de 20 minutes. Donc, c'était la mission un petit peu compliquée, et voilà, ça n'a pas tourné dans le bon sens.
Alors que de mon côté, j'avais mis victoire de Milan à Fiorentina, ils menaient 1-0, ils étaient à 11 contre 10 et ils ont réussi à se faire rattraper. On les remercie grandement. Bon, de l'autre côté, mon pari était Retafe Séville match nul et ça a fait 0-3. Donc sur celui-là, j'étais largement à côté, avec à noter un but de Jules Koundé, la pépite de Florent. Tes paris, Christophe, sur donc la Ligue des Champions, tu as un pari sur Naples-Barcelone. Je te laisse commencer par celui-là parce qu'on vient de parler du Barça.
Ouais, alors l'argumentation va pas être très développée, juste que j'étais assez fan de la cote. Donc mon pari, c'est Barça moins 1 à 3,60 pour Lionel Messi, parce que Lionel Messi, après en début de saison, où c'était du bon Lionel Messi, mais c'était pas le meilleur Lionel Messi possible. Quand tu vois sa montée en puissance, alors il ne marquait pas forcément ces dernières semaines, mais multiplier les passes décisives, et encore avec des partenaires un petit peu plus adroits à la finition, il aurait pu casser toutes les stats de passes D en seulement quelques semaines. Là, il se remet à marquer des buts. Il aurait d'ailleurs pu faire 3-4 passes décisives en plus s'il y avait eu plus de réussite à la finition face à Eibar. Donc Messi monte en puissance pour cette deuxième partie de saison et pour les matchs de Ligue des Champions. Et déjà l'an dernier, il voulait absolument la gagner. Ça n'avait pas arrivé. Là, je pense qu'il est de nouveau dans cette idée-là et qu'il va faire certains efforts qu'il ne fait pas toujours en championnat à la perte ou autre, et que globalement, le Barça va être vraiment remonté comme un coucou face à Naples, qui n'a pas joué ce week-end, si je ne dis pas de bêtises, avec le coronavirus en Italie. Alors, est-ce que ce Naples va manquer de rythme ou pas? Tu peux voir ça dans les deux sens, soit être plus frais, soit manquer de rythme. Je penche quand même plus pour la théorie du manque de rythme, surtout qu'en fait, cette équipe a
préciser que Naples n'a pas joué ce week-end parce qu'ils ont joué vendredi.
Ah, pardon.
Sur Brescia, victoire 2-1. Avec Fabian Ruiz, je m'en rappelle.
Ah oui, en plus, une frappe enroulée en lucarne. Oui, pardon.
Je l'ai mis sur le banc à MPG, donc je suis très très énervé déjà.
Oui, mais je suis bête en plus, j'ai vu le résumé effectivement avec Fabian Ruiz qui a failli remettre la même lucarne 2 minutes après, mais sorti par le gardien. Donc j'enlève cette partie-là, mais par contre, je reste quand même persuadé qu'il y a un écart de niveau assez conséquent. Je suis même pas loin de penser que le Barça peut gagner 4-5-0, ou au moins 3-4, mais je vais pas aller sur le Barça moins 2, je me contente du Barça moins 1, 3-60. Parce que même avec des meilleurs résultats en championnat ces dernières semaines, Naples reste une équipe qui est un peu minée par les problèmes relationnels à la fois au sein du groupe, avec l'entraîneur, enfin changement d'entraîneur, problème avec le président, tout le monde n'est pas au top individuellement, même quelques incompréhensions avec les supporters. Et je pense pas que l'effet Ligue des Champions puisse te permettre de totalement effacer l'écart de niveau et le niveau moyen que peut être celui d'un Koulibaly, d'un Haaland cette saison par rapport à un Barça qui est vraiment en plein renouveau. Donc Barça moins 1, 3,60.
Le Napoli qui a quand même battu en Coupe d'Italie la Lazio et l'Inter. Plus une victoire en championnat contre la Juve. Donc...
Alors oui, après quelques réserves sur ces matchs-là qui sont gagnés, donc tant mieux. Hein. Mais... ça a bien tourné, on va dire. Je me souviens notamment du match contre la Lazio, où je crois qu'il doit y avoir 4 ou 5 poteaux dans le match, où ça peut faire victoire 4-2, comme ça peut faire défaite 5-1. C'était l'un des matchs les plus fous de la saison. Alors, c'est bien de les avoir gagnés, mais c'est un peu la réussite que tu n'as pas eue sur d'autres matchs en première partie de saison.
Ton deuxième pari concerne une autre équipe italienne, c'est la Juve, qui se déplace à Lyon, Ligue des Champions.
Oui. Oui, match qui m'intéresse assez peu, on va le dire, que je regarderai en replay pour le podcast, mais que je n'avais pas priorisé sur le visionnage en direct. Mon pari, victoire de la Juve, but de Ronaldo à 2,60. Ronaldo, je crois que c'est 11 matchs de suite, si je dis pas de bêtises, en Serie A où il a marqué. Alors, il y a quelques pénaltys dans le lot, mais il faut les marquer. Et deuxièmement, ça prouve que son équipe est suffisamment dominatrice pour aller dans la surface et pour provoquer ces pénaltys-là. Donc, on va pas lui reprocher. Immobilier aussi marque beaucoup de pénaltys. Mais toujours est-il qu'il est vraiment sur une bonne série. À un moment, je voulais même pas pronostiquer un pénalty sera-t-il marqué, mais la cote n'était pas folle. Et sur le, donc ça, variable but de Ronaldo, vu qu'il marque à tous les matchs en ce moment, ça me paraît pas être le pari le plus incroyable, surtout qu'il est encore plus motivé en Ligue des Champions qu'en championnat. Donc, si un match où il va marquer, à mon avis, c'est plus face à Lyon que face à Lecce. Et deuxièmement, victoire de la Juve, parce que, en fait, je vois pas comment Lyon pourrait s'en sortir dans ce match-là, sauf circonstances favorables, ce qui peuvent toujours, ça peut toujours arriver, hein. Mais même si la Juve est pas top top, Lyon est encore beaucoup moins. Tu peux prendre le truc de toutes les façons. Plan de jeu, je trouve quand même que le plan de jeu de la Juve est un peu plus lisible que celui de Lyon. Philosophie de jeu, elle est plus affirmée. Lyon, je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent faire. Dynamique, la dynamique est plus du côté de la Juve. Individualité, il n'y a absolument pas photo. Ambiance générale, l'ambiance est quand même un peu meilleure du côté de la Juve qu'elle ne l'est à Lyon. Donc,
Même si l'ambiance à la Juve est pas non plus
oui, c'est ça. C'est pas la
mais elle est
folie.
tellement négative à Lyon que c'est vrai que je sais pas s'il y a un club en Europe qui est plus triste que Lyon en ce moment. Enfin,
Écoute.
dont les gens sont le plus tristes, hein, l'entourage, l'environnement.
Ouais, non, là, je vois pas. Donc, voilà. Victoire à la Juve, but de Ronaldo à 2,60. Alors, je ferai mon mea culpa si Lyon ne perd pas. Mais je pense que même les fans lyonnais ne s'étonneront pas de ma vision des choses. Parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de signes qui te montrent que Lyon serait capable d'avoir une vitesse supérieure à passer. Peu importe le pédigré de l'adversaire.
Je passe à mes paris, deux paris qui sont aussi sur la Ligue des Champions. Sur Chelsea-Bayern, je vais pas faire très long parce qu'on a déjà un peu parlé de ces deux équipes-là et de leur affrontement. Je pars quand même sur l'idée que ça va être un match à but, parce que ce sont deux équipes joueuses et deux équipes qui défensivement concèdent pas mal de situations. On l'a vu encore avec le Bayern qui concède deux buts contre Paderborn et Chelsea qui a quand même tendance à prendre des buts, même contre Tottenham ils en prennent un, contre Manchester ils perdent 2-0. Bon, ça me paraît difficile de voir un match fermé sur ces deux équipes-là, surtout vu le niveau derrière de certains éléments défensifs. Donc je vais partir sur un pari qui est que les deux équipes marqueront en première période. C'est à 3-15. Ça me paraît plutôt pas mal. Je pense d'ailleurs que c'est un match qui m'intéressera bien. Alors il y a Naples-Barça le même soir, mais il y aura un tel écart en théorie entre les deux équipes que je me dis que j'ai peut-être regardé plus Chelsea-Bayern. Et le lendemain, match entre Real et Manchester City, le match qu'on va le plus regarder, Christophe, je pense, des quatre proposés cette semaine. On fera sans doute un podcast après ce match-là. Puisque c'est vraiment deux équipes qui ont des situations très très différentes, mais dont il est dur de juger le niveau et le potentiel sur ce parcours de Ligue des Champions. Alors de manière assez claire, les bookmakers favorisent vachement City. Et les trouvent, je crois que City, la cote de la victoire de City est plus faible que la cote du Real. Ce qui me paraît quand même étonnant, sachant que le match est à Bernabéu et que individuellement, les joueurs du Real n'ont pas grand-chose à envier aux joueurs de City. Mais la force de City collectivement est telle que les bookmakers favorisent quand même City. Je vais partir sur deux ou trois buts dans le match à 2-10, parce que j'ai du mal à pencher d'un côté ou de l'autre sur pour qui ça va tourner et grâce à quoi, parce qu'il y a plein de possibilités, plein de variables. Mais je vois pas ces deux équipes garder un match pareil très très fermé ou très verrouillé. Je pense que c'est des équipes qui sont capables de concéder pas mal de buts aussi, notamment City, des buts assez bêtes. Il y a des forces chez le Real, dont je vois pas vraiment des joueurs côté City capables de leur répondre. Et inversement, la force collective de City, malgré ce retard en championnat, me paraît assez susceptible de mettre en grande difficulté le Real. Donc deux ou trois buts dans le match à 2-10, ça laisse la liberté à un match nul ou à une victoire d'un côté ou de l'autre. Je me dis que ça peut être pas mal. D'ailleurs, la cote est pas énorme, donc ça montre que c'est probable. Et en tout cas, ce sera un match très très intéressant à suivre, sans doute un des meilleurs huitièmes de finale sur le papier de cette édition de la Ligue des Champions.
Absolument.
Christophe, le programme, si tu l'as en tête, sachant que Florent va revenir donc d'ici le prochain épisode, donc on pourra le ramener avec nous. Puis il y a aussi les podcasts avec notre Patreon, patreon.com/vuedubansaga. On va s'attaquer à l'Espagne 2012 bientôt. Est-ce que tu as commencé les visionnages?
Non, pas encore, car je regardais des matchs de Ligue des Champions pour pouvoir en parler dans le podcast et pour pouvoir faire mes monologues interminables de cet épisode-là. Donc, je n'ai pas encore commencé, mais je les ai récupérés, donc ça ne va pas trop tarder. Donc oui, on a, sur le planning, là, dans tous les cas, il y aura un podcast en fin de semaine, enfin dans la semaine. Après, comment est-ce que ça s'articulera, à mon avis, ça sera un seul sur la deuxième partie de semaine, qui sera soit mercredi soir, soit jeudi, parce que je vois pas forcément l'intérêt de faire un podcast à chaud mardi soir.
Ce sera sans doute mercredi soir après Lyon et après Real City. Ouais,
je pense que ça va se passer comme ça. Puis sans doute un autre la semaine prochaine. On va un petit peu plus souvent faire des semaines à deux podcasts gratuits, un en début et en deuxième partie de semaine, pour débriefer les matchs européens du milieu de semaine. Et sur les gratuits, dans tous les cas, enfin sur les payants, pardon, dans tous les cas, ça va de nouveau s'accélérer. Là, il y a eu beaucoup de vidéos bonus ces derniers temps, à la fois des vidéos sur l'Euro 2008, avec notamment le Worst Of de France-Roumanie, que tu as vu avant l'enregistrement, vidéo que j'ai montée avec beaucoup de plaisir, et je pense que tu as aussi pris beaucoup de plaisir à voir cette vidéo.
J'ai repris goût à la vie une fois qu'elle s'est terminée.
Est-ce que c'était pire que... est-ce que tu pensais que autant de mauvaises actions dans un match de foot pouvaient avoir lieu?
Je dirais, c'est pas forcément mauvaise, mais c'est lente, très très lente, oui, par rapport à l'enjeu. C'est ça qui est vraiment étonnant. Et alors, le montage est mythique, parce que tu mets parfois des têtes du public qui sont vraiment au bout du rouleau, plus un applaudissement de Domenech à la fin de la vidéo. Je sais pas s'il l'applaudit vraiment à la fin du match, je pense pas.
Si, vraiment il applaudit. D'accord. À la fin du match. Il y a coup de sifflet final, là ça c'est pas un montage. Le match se termine, plan sur Domenech qui applaudit, et plan sur, je crois que c'est Pitorca, le sélectionneur roumain de l'autre côté, qui est tête basse et qui est mort de l'intérieur.
Ouais, non, mais c'était assez horrible. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre et avoir accès à plus de contenu, avoir accès aussi aux soirées qui vont bientôt arriver.
Je crois que c'est dans un mois là qu'on va faire la première.
Oui, ça va falloir qu'on s'y mette, du coup, si c'est dans un mois. Nos soirées, vu du banc, on est en train de repérer des lieux dans la belle ville de Paris pour nous réunir. On est aussi sur le Discord de Vue du Banc, vous pouvez le trouver sur la page Twitter de Vue du Banc, donc on est un peu partout. N'hésitez pas à nous rejoindre, et puis on se retrouve donc rapidement pour débriefer la Ligue des Champions et bien d'autres choses. Ciao.
Cordialement.
Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.